Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Camille Gabi. Elle est la cofondatrice de Imparfaite Paris. Sa mission, démocratiser le vintage et être une vraie alternative à la fast fashion en le rendant simple et accessible. C'est un épisode de folie où la tech et la mode se rencontrent. Bien sûr, on parle de son parcours, de sa rencontre avec Jean de la Roche-Brochard, de sa participation au No MBA de Kima Venture. Elle raconte comment elle s'y est prise pas à pas pour monter Imparfaite avec son associé Ariane Valini et de beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Camille, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Camille Gabi, la cofondatrice de Imparfaite. Salut Camille.
Hello, ça va?
Ça va et toi?
Ouais.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, alors Camille Gabi, je suis la cofondatrice de Imparfaite Paris, ouais, qui est un site internet et une marketplace professionnelle de vêtements et accessoires vintage qu'on a monté il y a un an avec mon associé Ariane.
Cool. Alors, ce que je demande souvent à mes invités, c'est de reprendre leur parcours depuis leurs études supérieures jusqu'à la création de son business.
Alors, avec Ariane, on s'est rencontrés en prépa,
donc
dans un univers un peu stressant, etc. On a travaillé ensemble dans ce contexte-là. On est rentré après en école de commerce, on s'est séparés, du coup on est allés chacune dans la nôtre.
Ouais.
À la suite de ça, elle est partie en mode. Elle est allée chez Saint Laurent, chez Lanvin en chef de projet.
D'accord.
Et moi je suis partie chez L'Oréal.
Ouais.
Après mes études, j'ai fait du développement commercial à Hong Kong. Je suis rentrée à Paris faire du développement de produits pour Saint Laurent pour les rouges à lèvres.
Ouais.
Donc un truc complètement différent, très créa. Et j'ai terminé à Londres. Chez Urban Decay, dans une marque qui venait juste d'être achetée en gros par le groupe. Et
ouais,
l'objectif, c'était vraiment une grosse expansion sur tout le pays, UK et Irlande.
Mm-hmm.
Donc, re-business, en gros. Et à ce moment-là, j'avais l'impression un peu d'avoir fait le tour, si tu veux, dans le groupe. Moi, j'adore L'Oréal, c'est une boîte incroyable, il y a plein de gens exceptionnels. On donne beaucoup de moyens, si tu veux, aux jeunes recrues aussi pour avoir de l'impact dans la boîte et sur les marques et sur le business. Donc, moi, j'ai beaucoup appris chez eux. Mais il y a un moment où juste, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Je savais que j'avais d'autres opportunités, que j'avais des opportunités pour grossir dans la boîte, etc. Mais j'avais envie d'autre chose et j'ai toujours eu envie, en gros, de monter mon projet.
Mmh.
Et il s'avère qu'à ce moment-là, un peu un hasard a fait que j'ai rencontré un mec qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard.
Ah, tu l'as rencontré?
Ouais, enfin, nos chemins se sont croisés, comme on dit.
D'accord.
Par une pote en commun qui bosse chez The Family, enfin bref, un truc un peu compliqué, mais quoi qu'il en soit, on s'est rencontrés. Et c'était pile au moment où lui, c'est le partenaire principal. Donc ce mec-là, parce qu'il est assez connu dans la tech, mais effectivement, c'est pas un nom qui rappelle grand-chose. Jean de la Roche-Brochard, c'est le partenaire principal d'un fonds de capital venture qui s'appelle Kima.
Ouais.
Qui est le fonds de capital venture de Xavier Niel, le fondateur de Free.
Juste, c'est quoi un fonds de capital venture?
Alors, un fonds de capital venture, c'est un fonds d'investissement,
ouais,
dans des startups, dans des entreprises, en gros, dans des profils de boîtes à risque, mais à fort potentiel de croissance.
D'accord.
Et lui, si tu veux, Xavier Niel, c'est un mec qui a donc monté Free, qui a très très bien réussi, qui est un pur produit de la tech, et qui a à cœur, si tu veux, d'aider beaucoup les nouveaux profils d'entrepreneurs. C'est un gars qui a monté l'école 42, je sais pas si t'en as entendu parler,
oui,
c'est une école de codeurs en gros à Paris, enfin,
ouais,
c'est un mec qui fait énormément de choses pour aider l'écosystème.
Et puis c'est lui qui a initié la fondation Station F.
Et Station F, évidemment, comment ne pas le... Évidemment Station F.
C'est quand même le gros truc du moment.
Qui est le gros truc du moment, tu vois, donc c'est un gars qui rend beaucoup, si tu veux, à l'écosystème.
Ouais.
Et donc par son fonds de capital venture qui s'appelle Kima, c'est le fonds le plus actif en gros qui existe aujourd'hui en France. Je crois qu'ils investissent dans à peu près 2 boîtes par semaine, donc ça fait un gros portefeuille au final. Et donc Jean de la Roche-Brochard est un peu son bras armé, si tu veux, sur l'investissement en seed. Et je suis tombée sur lui, et en fait, Jean et Xavier avaient dans l'idée de fonder une espèce de mini-école qu'ils ont appelée le No MBA. C'est une espèce de petite formation où ils prenaient des jeunes et l'idée, c'est de voir s'ils pouvaient en faire des entrepreneurs.
Ouais.
Et moi, c'était pile, si tu veux, dans mon mindset du moment. J'avais vraiment envie de faire autre chose, entrepreneuriat.
Tu étais intéressé, toi, par la tech? Tu regardais les vidéos de Oussama Hamar, de The Family?
Ah ouais,
tu lisais tous les articles médiums de Jean de la Roche-Rochard, justement?
Ouais. Alors, peut-être pas jusque-là, mais ouais. J'avais déjà regardé Coup d'État chez The Family. Je lisais beaucoup de bouquins, si tu veux, sur l'entrepreneuriat. Moi, j'étais passionnée par Amazon. Tu vois, c'était une boîte qui me fascinait. Du coup, ouais. Je lisais plein de trucs dessus. Je regardais tous les trucs que je pouvais trouver sur YouTube et tout, ouais, mais ça m'a toujours intéressée. Après, je pense que je me suis toujours dit, il faut des leaders, des mecs, si tu veux, qui ont des épaules de dingue, ces mecs, c'est des génies, tu vois, et bon, t'as pas la trempe, quoi. Je me suis dit, si tu fais un petit truc d'entrepreneuriat, ça va être sympathique, mais t'auras pas l'envergure de faire quelque chose d'incroyable, machin. Je pense que je manquais de confiance en moi, tout simplement. Et donc, je suis tombée sur ce gars, sur Jean. Donc, j'ai postulé direct. J'ai été prise. On a été 5 à être pris, je crois, sur des milliers de candidats. Donc, tu vois, je me suis dit, il y a peut-être un truc, quoi. Il y a peut-être un truc. Donc, j'ai posé ma dème à Londres. Donc, pas de chômage, rien du tout à Paris, tu vois.
Je vais t'interrompre beaucoup pendant l'interview.
Ouais,
d'après toi, pourquoi tu as été choisie ils ont eu pratiquement 1000 candidatures. Et pourquoi, toi, tu as été choisie? Qu'est-ce qui a plu dans ton profil?
Je pense que c'est la complémentarité déjà des profils qu'il a pris.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est pas moi en tant que tel, c'est moi plus lui plus machin. On était 5-6, tu veux, et on était tous très très différents. Donc je pense que si lui, il avait à cœur d'avoir des profils différents pour voir comment on réagissait, etc. Ouais. Et après, je pense qu'il a juste vu que j'avais la niaque, que j'avais envie, que j'étais quelqu'un avec l'esprit bien fait parce que j'avais 5 ans de L'Oréal derrière moi et que je savais construire un business et je savais l'entretenir.
Et le processus de recrutement, c'était quoi?
C'était hyper simple. Enfin, c'était absurde de maintenant quand je le regarde. On a rempli un questionnaire en ligne. On a passé un quart d'heure au téléphone avec lui et après on a eu une petite série de tests. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il te dit, moi je vais poser plein de fois la question, tu vois, comment ça se fait? Il dit non, mais en fait, c'est du feeling, c'est son travail en même temps, si tu veux, de sentir les gens parce qu'il les rencontre un quart d'heure ou 20 minutes. Ces gars-là leur expliquent le business et quand t'es en seed, quand t'es en train de lever de l'argent, si tu veux, et que t'as un mois ou...
Tu peux définir seed aussi, désolé, mais...
Non, tu fais bien, non. Je suis désolée, c'est parce qu'on est un peu technique. Seed, en fait, c'est dans la vie de ton entreprise, généralement, tu fais des levées de fonds pour avoir de l'argent, pour pouvoir continuer à investir dans ton activité. Et t'as plusieurs tours d'investissement qui sont un peu chartés, on va dire. Ton premier tour, généralement, c'est ce que tu appelles ta love money. C'est tes potes, ta famille, etc., qui mettent un peu d'argent en toi parce qu'ils croient en toi, etc. Après, tu as ton deuxième tour qui s'appelle le seed. Seed, c'est S-E-E-D, tu vois.
Graine.
La graine, exactement. C'est quelques centaines de milliers d'euros, généralement. Et c'est ton premier boost, tu vois. C'est avoir un petit peu plus de sous pour investir un petit peu plus, etc. Une fois que tu as fait ton seed, donc ton seed généralement c'est entre 300 000 et 1 million.
Ouais.
Après tu as une série A, ça pour le coup c'est plusieurs millions d'euros. Après tu as la série B, la série après tu. Voilà.
Ok.
Voilà, donc Jean de la Roche-Brochard et Kima, c'est des gars qui investissent en seed, c'est-à-dire qu'ils donnent 150 000 euros à une boîte, et voilà. Et en fait, tout le projet c'était de dire je vais investir du temps dans 5 jeunes. Je vais leur montrer l'écosystème entrepreneurial de Paris. Donc, je vais leur montrer les boîtes dans lesquelles on a investi. Je vais leur montrer comment on fait du financement en seed pour ces jeunes boîtes-là. Je vais leur montrer comment est-ce qu'on screen un bon entrepreneur. Tu vois, quels sont les indicateurs ou, tu vois, les trucs un peu, c'est du feeling, hein, mais ce qui fait que ça sent bon ou au contraire, il y a des problèmes que tu peux percevoir et tu sais que ça va peut-être pas tenir très longtemps. Et en fait, nous, le programme, c'était 6 mois. C'est 2 fois 6 mois. C'était les 6 premiers mois où il nous a mis dans des boîtes de son portefeuille. On est allé chez Payfit, c'est de la compta digitalisée. On est allé chez Zenly. Je ne sais pas si tu as vu, c'est une boîte en gros qui a été rachetée par Snapchat, plusieurs millions d'euros, qui fait de la géolocalisation. On a été chez Restopolitan, qui fait des bons restaurants. Enfin, on a été dans plein de boîtes.
Et vous faisiez quoi là-bas?
Nous, au final, on était censé les aider, si tu veux. On était censé les aider sur des problématiques qu'ils avaient à un moment.
Ouais.
Donc par exemple chez Pfit, on les a aidés un peu sur du inbound marketing. Chez
c'est quoi le inbound marketing?
C'est pardon, il faut vraiment tu fais bien.
Le inbound marketing. À chaque fois.
Non mais tu fais bien. Le inbound marketing, en gros, c'est toutes les stratégies que tu mets en place qui font que ton client vient à toi naturellement.
D'accord.
C'est-à-dire, par exemple, c'est des stratégies de contenu. Quand tu écris des blogs, etc., tu vois, c'est du contenu que tu mets sur la toile. C'est, ça intéresse, tu veux, tes clients, et petit à petit, ils viennent à toi.
Tu nourris ta communauté.
Tu nourris ta communauté. Versus de l'outbound, où là, c'est des stratégies plus agressives. Souvent, c'est du payant pour aller chercher tes clients.
D'accord.
Voilà. Donc, je suis désolée, c'est un peu technique, mais il ne faut vraiment pas hésiter à m'arrêter. Donc, tu vois, on aidait toutes ces boîtes un peu sur des stratégies, sur des problématiques un peu différentes. Mais surtout, nous, on aidait, mais c'est surtout nous qui avons appris un truc de malade, si tu veux, grâce à eux. Quoi.
Ouais.
Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que grâce à cette expérience-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des boîtes qui étaient incroyables, qui étaient effectivement construites par des mecs qui étaient incroyables aussi. Mais la grande différence qu'il y avait entre ces types-là et moi, c'était qu'ils avaient une résilience de malade, que c'était des fous de travail. En fait, c'est pas quelque chose qui tombe, tu vois, qui
ça tombe
du ciel.
Seul,
non, non, pas du tout. C'est du boulot, mais de fou. C'est des gars qui s'entourent bien. Et c'est des gars qui ont la foi en eux, quoi. Juste, ils y croient à mort.
Ils ont une confiance eux de malade.
Ouais, ils ont une confiance de malade. Et surtout, ils ont une confiance qui est hyper communicative, quoi. Parce que ils y croient tellement que d'autres y croient aussi. Et ensemble, en fait, c'est des prophéties qui sont autoréalisatrices, tu veux. C'est-à-dire que quand tu as un mindset qui fait que ça marche, ça marche, quoi. Et je me suis dit, c'est peut-être pas si dur, en fait, d'entreprendre au final. Il suffit d'y croire, il suffit de te lancer. Il suffit de mettre un pied devant l'autre, en gros. De toute façon, tu vas pas... Enfin, Rome, c'est pas fait en un jour. Amazon, c'est pas fait en un jour. N'importe quelle boîte, c'est pas fait en un jour. Tu commences petit, tu mets un pied devant l'autre. T'apprends tous les jours, tu vas te planter des milliards de fois, ça va faire mal, ça va être compliqué. L'idée, c'est pas de baisser les bras, c'est de continuer, et à un moment, ça marchera, quoi.
Et qu'est-ce que t'as appris d'autre pendant cette année de No MBA?
J'ai appris ça, j'ai appris des techniques de start-up, si tu veux, d'entrepreneuriat, qui, moi, m'ont rassuré vachement aussi pour après lancer mon truc. C'est-à-dire, effectivement, quand... moi, je savais que je voulais faire une boîte... technique. Donc j'allais pas monter une boîte de mode, par exemple, j'allais pas monter ma marque de mode parce que je suis pas styliste, j'ai un goût, si tu veux, pour la mode, mais il y a tellement de trucs qui existent déjà autour que j'avais rien à rajouter vraiment, si tu veux, à l'écosystème. Donc je savais que je voulais faire un truc de mode, enfin un truc pardon technologique, mais j'avais pas les autant j'avais la base business qui m'avait été apprise, si tu veux, pendant mes années chez L'Oréal. Mais je savais pas bootstrapper des choses. Bootstrapper, en gros, t'as un gros truc de hacker quand t'es en startup. C'est comment tu fais pour avoir un maximum en payant le minimum, tu vois. T'as plein de règles de startup qui sont ne va jamais, si tu veux, sur ton business sans l'avoir testé avant. Et il y a plein de trucs, en fait, où effectivement, si t'es pas entouré de bonnes personnes, si t'as pas l'écosystème, si t'as pas lu beaucoup de bouquins, c'est très vite possible de te planter, de mettre beaucoup d'argent sur la table et en fait de pas avoir de payback et juste de laisser tomber, quoi.
Mais c'est beaucoup de bon sens souvent.
C'est beaucoup de bon sens, mais en fait oui et non, tu vois. Typiquement nous chez Imparfait, la logique de moi et d'Ariane, si tu veux, à l'origine, ça aurait été de dire on t'a vraiment un design incroyable parce qu'il faut que notre site soit beau, il faut que l'expérience client soit beau, parce que sinon, on va pas être capable, si tu veux, de convertir des clientes, etc. Et ça, c'est à l'inverse de la logique startup qui est surtout pas, tu n'attends pas d'avoir un produit qui est fini, surtout tu lances ton produit le plus rapidement possible, parce que ça te permet d'avoir du feedback client, qui te permet du coup d'améliorer ton produit en fonction de ce qui est vraiment important pour ta clientèle. Et ça, malheureusement, si on te l'a pas dit, ou si t'as pas des gens, si tu veux, bienveillants autour de toi qui t'ont expliqué que c'était comme ça que ça se faisait, parce que sinon t'allais perdre du temps et de l'argent, c'est pas si évident, quoi.
Mais on n'a pas tous la chance de faire le NO MBA de Kima. Comment on peut apprendre ça?
T'as The Family. En vrai, t'as énormément de moyens aujourd'hui. C'est ça qui est bien, c'est que il y a quand même, enfin, la start-up en France et à Paris, c'est ouf. Hein, il se passe un truc de dingue. T'as The Family. Nous, on n'est pas incubés chez eux. Enfin, on ne fait pas partie de la The Family, etc. Mais c'est des gens, si tu veux, qui ont vraiment à cœur d'échanger et de faire grandir tous les entrepreneurs en devenir. Donc, ils ont une formation en ligne qui s'appelle Coup d'État. Qui est gratuite, qui est complètement gratuite. Il suffit juste de mettre ton mail, en gros. Et t'as, je sais pas moi, je vais te dire une bêtise, mais tu dois avoir 150 heures de formation en ligne, quoi. Où t'as effectivement Oussama Hamar, mais pas que lui, hein. T'as Balthazar de Laverne, t'as Lisa Guri, t'as plein de gens, en fait, effectivement, de The Family qui t'expliquent le bon sens, si tu veux, de la start-up. Après, il y a plein de personnes, si tu veux, qui critiquent pas mal de leurs adages, etc.
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont très, ils sont très radicaux, si tu veux, dans la manière de voir la start-up. C'est très noir ou blanc, etc. Alors qu'effectivement, il faut être honnête, tu vois. Enfin, t'as énormément de nuances de gris quand tu fais de la start-up, enfin, quand tu montes ta boîte. T'as très rarement une réponse très tranchée, si tu veux, sur les questions que t'as. Maintenant, eux, comme ils sont dans l'enseignement et dans la transmission, ils sont obligés d'avoir des discours, si tu veux, qui sont tranchés. Donc, c'est ça.
Que ce soit clivant, il faut que ça interpelle les gens. Ouais.
Exactement. Donc, leur manière de faire est un peu discriminante. Ça aide certaines personnes. Et t'as d'autres personnes qui sont complètement, si tu veux, en rejet et qui n'aiment pas du tout leur manière de voir les choses. Mais au moins, ça a le bénéfice d'exister, quoi. T'as Station F, effectivement, t'as raison. T'as Station F, tu vas à Station F, t'as des conférences dans tous les sens, t'as des mecs qui sont là pour t'aider. T'as le wagon. Enfin, t'as plein, si tu veux, d'endroits aujourd'hui qui sont start-up friendly, où tu peux aller, tu peux écouter, tu peux écouter des gens. T'as toi aussi, si tu veux, qui fait du coup ton podcast aussi, qui aide les gens. Il faut juste, tu veux, avoir un petit peu de drive et aller chercher l'information, quoi. Mais elle existe et elle est là, quoi.
D'ailleurs, sur la mode, il existe quoi aujourd'hui ? Sur la mode spécifiquement, t'as croisé des organismes, des organisations, des gens qui vraiment...
Non, t'as raison.
De l'info là-dessus ?
Non, je connais pas un truc
sur la mode. Parce que la mode, c'est pas de la tech. C'est un peu différent.
Bah, ça dépend, effectivement. C'est vrai que moi, je te parle d'un truc qui est très tech, parce que notre projet est très tech. Après, monter ta marque, je saurais pas te dire, en fait, je sais pas. Mais j'imagine qu'à l'IFM, tu dois être un peu entouré et que tu dois avoir certains modules qui doivent t'aider. Je sais pas. Après, il y a aussi un truc qui est vrai chez les start-upers à Paris, du moins. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je pense que c'est à peu près pareil. C'est qu'il y a énormément d'entraide.
Ouais.
Énormément d'entraide.
Les gens sont hyper ouverts, ils partagent énormément.
Hyper ouverts. C'est aussi la raison pour laquelle, tu vois, j'ai accepté de venir te parler et tout, alors qu'au contraire, nous, on est très... il faut être focalisé à fond sur le travail, il faut délivrer, il ne faut pas perdre son temps à trop parler. En vrai, tu as un vrai truc d'entraide où si tu tapes à la porte de quelqu'un, c'est très rare ou ce serait très bizarre, en fait, qu'il te refuse 20 minutes de conversation au téléphone. Moi, c'est ce que j'ai fait au tout départ de l'entreprise. J'ai passé mon temps à appeler les gens, à juste rajouter des mecs sur LinkedIn, à demander à des potes de me faire des intros de potes, enfin tu vois, parce que je savais que c'était des gens qui avaient potentiellement un truc à m'apprendre et que quand t'apprends aujourd'hui, t'as plusieurs manières de faire. Soit tu lis des bouquins, mais ça prend du temps. Soit tu vas sur internet, mais pareil, ça prend du temps et t'as quand même à boire et à manger, t'as des trucs qui sont pas forcément hyper quali. Soit tu vas taper à la porte des gens qui savent, quoi. Soit tu testes, mais pareil, tu peux te planter,
ça prend du temps,
tu vois. Donc moi, j'ai toujours eu le truc de si je veux savoir ou si je veux me former sur un sujet, tu vois, parce que quand tu montes ta boîte, il y a plein de trucs sur lesquels t'en sais rien, en fait. Tu sais pas comment tu fais de l'inbound, justement, tu sais pas comment tu fais de l'outbound, tu sais pas comment tu fais du marketing, tu sais pas comment tu fais de l'acquisition, tu sais pas comment tu construis ton site internet, tu sais rien, en fait.
Ouais.
Donc à un moment, faut apprendre, et t'apprends, tu vas taper à la porte des gens.
Donc à chaque fois que t'as une problématique, t'en as fait un système, à chaque fois que t'as une problématique, tu vas t'essayer de spotter les personnes qui vont pouvoir t'aider là-dessus, et tu vas leur parler.
Moi, ma manière de faire, c'est j'identifie un problème ou un challenge. Faut pas dire un problème. Ah, ne m'engueule, je fais, c'est pas un problème, c'est un challenge. Bref. Donc, un challenge. J'essaye d'apprendre un maximum de choses. Google est ton ami, tu vois. Donc, tu googles le truc à fond. T'essayes de voir les trois premières pages. En gros, quels sont les articles qui font référence. Tu lis tout ce qu'il faut là-dessus. Je commande sur Amazon les trois bouquins, en gros, pareil, qui font référence. Et après, j'appelle les trois mecs qui font référence aussi dans l'écosystème. Et comment je trouve ces mecs-là? T'appelles les gars que tu connais. C'est que du réseau, en fait. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'appelle Jean de la Roche-Brochard ou j'appelle les mecs de chez The Family, j'appelle des gens avec qui, en gros, j'ai lié d'amitié et je leur dis voilà, j'ai une première éthique là-dessus, quels sont les mecs qui font référence, fais-moi une intro, tu vois.
Ouais.
Ça marche toujours comme ça. Et si tu et si ça marche pas comme ça parce que c'est pas un mec qui est dans le dans mon environnement proche, bah tu vas tu prends en gros ton courage à deux mains, tu vas sur LinkedIn, tu le pines, tu lui envoies un petit message et c'est hyper rare. Franchement, moi j'ai quasiment jamais eu de non, désolé, je veux pas t'aider parce que ces mecs-là ils ont été dans cette dans ta situation à un moment, ils s'en rappellent et généralement ils sont hyper contents de rendre l'appareil quoi.
Très bien. Ok, donc ça c'était une grande introduction
ouais, pardon.
qui était passionnante, qui était très intéressante. Parlons de Imparfait. Comment ça s'est déroulé? Enfin l'idée, comment elle est arrivée? Pourquoi du côté d'Ariane aussi il y a eu cette envie d'entreprendre et se lancer? Parce que qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps Ariane en parallèle? Pendant que toi, tu étais chez NoMBA.
Bah, elle était chez Lanvin, du coup, en chef de projet. Mm. Elle a adoré Lanvin, elle a adoré Saint-Laurent, elle a adoré toutes les boîtes dans lesquelles elle travaillait. Mm. Et en fait, elle a un moment, en fait, je suis pas très au fait, donc je vais certainement dire des bêtises, mais en gros, le directeur artistique de Lanvin, Albert Elbaz,
ouais.
A quitté Lanvin et je crois que ça s'est pas très bien passé. Enfin bref,
ouais,
il y a eu des complexités un peu en interne. Elle se sentait plus à sa place. Mmh. Du coup, elle est partie de chez Lanvin et elle est partie s'installer à Bordeaux parce que son mari est à Bordeaux. Donc elle s'est dit c'est une bonne occasion de recommencer ma vie là-bas. Et c'est pile poil au moment où moi je l'ai appelée en mode Ariane, j'ai un projet pour toi et moi. C'est une marketplace du vintage et là tout de suite elle était à fond. On se connaît hyper bien et on a l'avantage de savoir qu'on est très complémentaires. Elle est très créa, moi je suis très business. Elle est très douce, moi je suis très pushy. Elle est très micro, elle va aller dans le détail de plein de choses. Moi je suis très macro, tu vois, moi je vois la big picture, j'essaye d'aller loin, je vois machin. Elle est hyper minutieuse, elle fait toujours du travail impeccable, etc. On match pas avec les mêmes personnes, en plus c'est drôle, tu vois. Elle va matcher avec des gens plus créa, plus doux. Moi, je vais être plus sur des gens un peu plus agressifs. Enfin, on a des profils qui sont hyper complémentaires. Et en fait, quand j'ai eu l'idée d'Imparfait, donc c'était au sein d'une OMBA, quand j'ai eu l'idée d'Imparfait, il n'y avait personne d'autre qu'Ariane qui était possible déjà d'un point de vue association. Et il s'avère en plus que c'est Ariane qui m'a amenée au vintage. Ariane, c'est une nana qui... c'est elle l'expertise métier, tu vois. Moi, j'adore le vintage d'un point de vue personnel. Si tu veux, je chine depuis hyper longtemps mes propres fringues, etc. Mais elle a l'œil, tu vois. Elle est capable de trouver dans un tas de fringues, si tu veux, la pièce de ouf avec une coupe de dingue, une matière de dingue et le truc qui va tomber trop bien, tu vois. Et en fait, quand on était en prépa, elle est arrivée en billet en vintage, tu vois. Après, c'était pas des total look vintage. C'était toujours une pièce par-ci, par-là, mais qui faisait que, tu vois, sa silhouette juste prenait un chic de dingue.
Ouais.
Et elle arrivait, si tu veux, à chaque fois. Nous, on était habillés en Zara, en Mango. Tu vois, on était tous habillés pareil, avec des fringues globalement qu'on savait qu'elle allait durer une saison, tu vois. Et elle arrivait avec ses fringues vintage de fou et tout. Donc, c'est elle qui déjà nous a, dans notre groupe de potes de prépa, tu vois, c'est elle déjà qui doucement nous a introduit au vintage. Et ça fait 10 ans, en gros, qu'elle fait ça. Quand elle a été chez Lanvin, chez Saint-Laurent, toi, tu dois être au courant, tu vois, quand lors de la création des collections, souvent, la première source d'inspiration des stylistes et des chefs de projet, c'est d'aller en vintage voir ce qui s'est fait, tu vois. Donc elle, quand elle était en bijoux chez Saint-Laurent ou chez Lanvin, elle passait du temps aussi, tu vois, dans les boutiques vintage, à aller chercher des trucs, à acheter des trucs pour inspirer un peu le studio. Donc quand l'idée d'Imparfait est venue, je savais que je pouvais fonctionner avec elle en cofondatrice et que ça allait trop bien marcher. Et en plus, je savais qu'elle avait l'expertise métier, tu vois. Ouais. Donc, je lui ai vendu le truc. Elle m'a dit, OK, on y va. Et on a commencé à travailler dessus.
OK. Alors, je t'arrête. Le light bubble moment, enfin, le moment où tu as eu l'idée, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, la puce à l'oreille, etc. Pourquoi tu t'attaques au vintage et pourquoi tu t'attaques au vintage?
Pourquoi? Parce que, en gros, un jour, le moment où ça s'est passé.
Ouais.
Attends, j'essaye de me rappeler de ce moment.
Vas-y.
En fait, je crois que c'est une multitude de choses. Un, c'est 10 ans de chine en vintage, plus le truc qui m'a toujours frappé, c'est de dire c'est dingue. Le fast fashion, c'est quand même l'industrie, la deuxième industrie la plus polluante au monde. Les gens le savent pas forcément, tu vois. Mais là, on commence à avoir un petit peu plus quand même conscience de ce genre de choses.
Une grosse prise de conscience.
Tu vois, la catastrophe là au Bangladesh en 2013, le Rana Plaza qui s'est cassé la gueule, etc. Tout ça, c'est des moments de prise de conscience, tu vois, un peu collective et tout. Donc
tous les documentaires sur Netflix sur l'environnement, etc. Il y a une vraie prise de conscience, quoi.
Ouais, The True Cost. Je sais pas si vous l'avez pas vu sur Netflix, regardez-le. Faut absolument aller voir. T'as tout doucement, si tu veux, c'est un message qui commence à se diffuser plutôt pas mal. Et puis surtout, à chaque fois, si tu veux, on est halluciné parce qu'on se dit c'est dingue, c'est des mecs qui reproduisent en neuf ce qui existe déjà dans des boutiques vintage. Mmh. C'est juste que c'est pas accessible parce que chiner, ça prend du temps, ça prend beaucoup de commitment. T'as des centaines de boutiques qui sont réparties un peu partout, et puis c'est la chasse au trésor, quoi. Tu peux y aller dans tes boutiques préférées. Un jour, tu vas revenir avec 10 trucs trop bien. Mmh. Tu y retournes 3 semaines plus tard, il y a rien parce que
il faut y aller toutes les aléatoire, semaines, quoi.
On se disait, du coup, quand t'es une femme moderne, c'est-à-dire que t'as un boulot, t'as un mec, potentiellement t'as des enfants, une vie sociale, etc. T'as pas forcément le temps, effectivement, de passer tout ton week-end à aller faire le tour de toutes tes boutiques. Mmh. On se disait, c'est donc dingue de se rendre compte que ces choses existent et que la plupart des femmes adorent le vintage dans l'esprit, si tu veux, mais juste elles ont aucun endroit pour aller chiner de manière simple. Ça n'existe pas, en fait, en ligne, une boutique de référence, tu veux, qui arrive à agréger toutes les boutiques, si tu veux, de qualité de vintage de France. Donc ça, c'est un truc déjà, si tu veux, qu'on avait en tête depuis longtemps, et c'est l'une des idées que j'avais en rentrant dans le NoMBI, tu vois. C'est l'une des idées, on en avait parlé avec Jean, il m'avait dit c'est une bonne idée, pourquoi pas, etc. Et puis en fait, le moment où je me suis dit ok, faut le faire, c'est quand dans la deuxième partie du NoMBI de Jean. Donc la première partie, je m'étais dit ok, en fait, je peux peut-être essayer de construire mon truc, c'est peut-être accessible et il faut pas être un surhomme en gros pour y arriver. La deuxième partie, c'était ok, maintenant que vous avez vu tout ça, maintenant que vous avez appris pendant 6 mois, montez votre boîte. Mais à l'origine, dans la tête de Jean, tu vois, c'était monter ta petite boîte, c'était un truc un peu pour tester, pour que tu vois un peu comment marche WordPress, pour que tu puisses mettre un mode de paiement, que tu comprennes un peu comment les briques, tu vois,
fonctionnent
les unes avec les autres. Et moi, je suis allée le voir, j'ai dit, en fait, je veux pas faire un petit truc, moi, je veux faire un gros truc. J'ai cette idée sur le vintage. Et en plus, c'était pile poil au moment où Celency était en train de faire une série A, du coup, une deuxième levée. Et Celency, c'est une boîte qui fait de la brocante en ligne. Donc quelque part, on n'est pas très loin, si tu veux, dans l'idée, parce que eux, ils font ça, mais sur du meuble, alors que nous, on veut faire ça sur
du vêtement.
Tu vois. Et je me suis dit, si eux, ils arrivent à le faire sur du meuble, il n'y a pas de raison que nous, on n'arrive pas à le faire sur du vêtement. Donc go, tu vois. Donc on a commencé pendant 6 mois, tu vois, à regarder le marché, à comprendre comment ça fonctionnait. On a passé énormément de temps dans des friperies, dans des dépôts-ventes. On s'est liés d'amitié, si tu veux, avec des propriétaires. Mmh. Où on était avec eux vraiment derrière le comptoir à regarder comment ils fonctionnaient, tu vois.
Et aujourd'hui, grosso modo, le marché de la friperie en France, et puis après, tu me diras à l'international, ça marche comment ? Parce que moi, en tant que styliste, j'ai en tête les Guérisold, qui sont des vraies mines d'or pour les stylistes. T'as Anouchka qui fait de la location et tu loues ta paire de pompes 800 € pour 3 semaines pour t'inspirer dans ton studio. T'as Brut Archive, t'as beaucoup de gens et c'est un marché qui est vraiment éclaté. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Qu'est-ce que t'as appris de plus, toi ?
J'ai appris qu'effectivement, c'est un marché qui est hyper fragmenté, comme tu dis. T'as 15 000 vendeurs aujourd'hui de seconde main en France. C'est des gens qui sont au final assez seuls et assez... C'est des mecs qui sont très libres, tu vois, qui aiment leur liberté, etc. Donc, ils chinent par passion. Et un peu, le business, souvent, c'est un peu obligatoire, tu vois. Mais c'est pas la partie du travail qui leur plaît le plus, quoi. Voilà. Ouais. C'est un secteur qui a complètement loupé le tournant digital. C'est des gars qui sont encore, vraiment, mais nous, ça nous hallucine, mais on trouve ça magnifique, mais qui ont encore, si tu veux, le cahier... comment ça s'appelle, là, tu sais, le cahier avec les feuilles doubles, tu vois, où ça te permet de faire la facture derrière. À chaque fois, ils font les factures comme ça à la main, tu vois. Ils ont aucune idée de leur stock. Ils ont aucune idée de combien ils ont fait ce mois-ci. Tu vois, ça, c'est vraiment, ils font leur compte à la mano. Et nous, quand on est arrivé là, on s'est dit, à la fois, c'est génial parce que c'est un truc qui a pas bougé et c'est magnifique, tu vois. Mais en même temps, on peut les aider, un truc de fou avec la technique et la technologie pour arriver à simplifier leur vie tout le temps, tu vois. Et on s'est rendu compte que c'était des mecs qui vivaient quand même dans le siècle actuel, qui savaient que le digital, si tu veux, c'était une vraie opportunité de business, mais que juste, ils ne savaient pas faire. Parce que chiner la bonne pièce, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. C'est des mecs qui sont, je te dis, passionnés. Enfin, tu les vois vraiment, de temps en temps, tu les vois arriver avec des fringues. Ils sont genre, mais tu as vu cette pépite que je t'ai dénichée, tu as vu la qualité de la broderie. Enfin, vraiment, ils vivent pour ça, quoi. Ouais. Ils ont des étoiles dans les yeux et nous c'est des mecs qui tous les jours nous animent et quand on les voit travailler, enfin ça nous donne une pêche de fou quoi. Donc ils vivent pour ça et en même temps ils se disent bah je suis désolée, j'ai pas le temps parce que ça me prend trop de temps et le digital j'y connais rien. Créer un site c'est compliqué, ça prend du temps et après avoir du trafic sur ton site, faire venir les gens sur ton site c'est la croix et la bannière. Donc ceux qui l'ont fait, parce qu'il y en a quand même certains qui l'ont fait, ont des sites qui souvent sont morts dans le sens où il n'y a pas de trafic et les pièces qui sont référencées sur leur site, ça fait bien lurette en gros qu'elles sont vendues en boutique. Donc c'est juste une vitrine si tu veux pour les faire venir, mais au final ils sont en 35e page chez Google. Donc tu vois.
Et Instagram leur a fait du bien quand même à tous ces gens.
Ouais, t'as raison. Instagram leur fait du bien, c'est vrai. T'as plein de petites nanas en ce moment qui se lancent, tu veux, à créer des marques où elles vendent une pièce par-ci, une pièce par-là. Mais
c'est de la bricole, c'est pas industrialisé comme processus quoi.
Ouais, je vais pas te dire que ce qu'elles font c'est de la bricole parce que vraiment à mon avis pour faire ça sur Instagram elles y passent énormément
de
temps.
C'est un travail de malade mental.
C'est un travail de fou. Mais c'est juste que c'est pas scalable, c'est-à-dire que
scalable.
Tu peux pas grossir avec ça. Ouais. Tu peux pas en faire un business.
Tu peux pas faire des économies d'échelle.
Ouais. C'est-à-dire que la pièce que tu vends sur Instagram, il faut que tu trouves une nana pour la shooter, Si toi, tu veux pas que ce soit shooté sur toi, il faut faire une jolie photo, ça prend du temps, la belle lumière, etc., machin. Après, il faut poster. Après, une fois que tu l'as vendue, il faut l'emballer, et ça, c'est sans toute la partie Chine. Donc ça, si tu veux faire ça à échelle, c'est-à-dire si tu veux faire ça sur des centaines et des centaines de pièces par mois, bah, c'est une organisation, c'est compliqué. Voilà. Donc nous, tout le principe, c'était de dire, il y a un truc qui est incroyable, qui est le marché du vintage en France, qui représente 15 000 vendeurs, qui sont éparpillés partout, qui vivent pour leur boutique, mais qui n'ont pas d'ouverture sur le digital. Et de l'autre côté, tu as des femmes qui ont envie d'acheter du vintage, mais qui n'ont juste pas l'occasion parce qu'elles ne savent pas où aller, parce qu'elles n'ont pas le temps. Tu vois. C'est dit, bon, bah, du coup, il y a une brique digitale qu'on peut mettre au milieu, qui est un site internet. Nous, on s'est chiné, si tu veux, pour nous, mais on n'a pas l'expertise de nos vendeurs qui est d'aller dans des stocks de vintage et trouver les belles pièces. Nous, en revanche, ce qu'on sait faire, c'est on sait faire un beau site internet, on sait faire un truc qui marche, on sait aller chercher des gens, on sait avoir des stratégies digitales et marketing qui fonctionnent. Donc, on leur a dit, on se charge de votre canal digital. Et comme ça, vous pouvez vous focaliser sur ce que vous aimez faire, à savoir chiner et trouver des belles pièces. Quoi.
D'accord. Donc, vous êtes vraiment un intermédiaire.
On est vraiment une marketplace, c'est vraiment un intermédiaire. Nous, on ne chine pas pour nous. On n'est pas une énième, si tu veux, friperie en ligne. Nous, l'idée, c'est de dire, on est le Farfetch de la fripe.
D'accord. OK. Donc, alors ceci étant dit, vous avez commencé par quoi? Les premiers pas, tu parlais de petits pas tout à l'heure. Le premier petit pas, c'était quoi?
Alors, le premier petit pas, ça a été... c'était il y a un an pile poil, et ça me fait trop marrer, parce que maintenant, quand on regarde, si tu veux, on se dit, mais mon Dieu, comment on a pu commencer par ça, quoi? Mais à la limite, c'est sain d'avoir honte de tes premiers pas parce que ça veut dire que ton produit était pas prêt, mais c'est pas grave, tu as été, tu as testé, tu as appris, tu vois. Ça, c'est typiquement le genre d'apprentissage, le genre de mindset que The Family et tout l'écosystème startup, si tu veux, te met dans la tête. C'est n'aie pas peur d'avoir honte. Tu auras toujours honte, mais c'est pas grave, t'apprends, et l'important, c'est d'apprendre et de grandir, tu vois. Donc on a commencé il y a un an où on a acheté 50 pièces de vintage à nous, pour le coup c'est nous qui avons acheté ces pièces là et on les a mises sur Facebook, dans un shop Facebook, tu vois. C'était horrible, c'était vraiment mal fait et c'était vraiment pas beau. N'empêche que on a vendu toutes les pièces en 4 heures, 50 pièces parties en 4 heures, donc on était contentes, tu vois, on s'est dit bon,
comment ça se fait?
Bah, on les a mis sur Facebook, on les a postés, on a posté chacune sur nos Facebook respectifs qu'on avait 50 pièces vintage qu'on avait chinées et on a attendu que ça prenne, tu vois.
Vous racontiez l'histoire derrière quand même, de dire on a envie quand même de disrupter le marché, enfin peut-être pas ce mot-là, mais
on avait fait un blog post en gros sur Facebook où on expliquait qu'effectivement on était en train de construire une marketplace du vintage, qu'on voulait démocratiser le vintage pour en faire une alternative au fast fashion. Mais c'était tout, tu vois. Après, nos copines, enfin, tu vois, au début, t'as un effet solidaire. Hein. Tes copines repostent. Et puis, du coup, en fait, t'as un reach sur Facebook qui devient énorme parce que les copines de copines de copines de copines, au final, voilà. Quoi qu'il en soit, en 4 heures, on avait tout vendu. Donc, on était trop contentes. On s'est dit, bon, bah, ça marche. OK. Bon, bah, essayons plus gros, tu vois. Bah, on a acheté 100 pièces. Okay. On a refait pareil. Bon, bah, ça a pris 5 heures, mais on a tout vendu, tu vois. On s'est dit, OK, bon, bah, en fait, il y a vraiment peut-être un truc et tout. Et là, nos copines nous disaient, c'est vachement bien, mais vos fringues, elles sont sur cintre. On se rend compte qu'elles sont belles et tout, mais ce serait bien d'avoir des looks, d'avoir des inspirations et tout. Très bien. Bon, bah, on va faire des looks. Super. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, on a arrêté Facebook. On s'est dit, OK, on va faire un site internet. On est allé sur une solution qui était déjà toute faite, qui s'appelle Shopify. Que d'ailleurs, je ne recommande pas. Vaut mieux partir sur un WordPress, mais bref. On est parti sur un Shopify parce qu'on s'est dit, voilà, il y a des millions et des millions de sites internet qui marchent sur Shopify. Donc, pourquoi pas nous, tu vois, voilà. On s'est foutu sur un Shopify. On a demandé à une graphiste de nous faire un logo. Et on a mis un logo. On a demandé à l'une de nos copines d'aller sur les quais et de shooter des looks avec nous. Elle a dit OK. On a shooté 45 looks. On a mis les pièces un petit peu plus chères, du coup, parce qu'elles étaient, on avait plus de travail derrière, etc. Et pareil, partie en 5 minutes. Donc, on était trop contentes. Donc, tu vois, petit à petit, en fait, on s'est dit, tiens, il y a vraiment quelque chose. Et on avait vraiment cette idée de faire, tu vois, un marché agrégé. Donc, de faire un Farfetch, vraiment, si tu veux, du vintage. Donc, on a commencé à aller voir des vendeurs en leur disant, voilà, nous, nos pièces, elles se vendent en 5 minutes. On a un joli site avec une belle esthétique vintage. Est-ce que vous voulez nous donner des pièces? Et petit à petit, on est arrivé à convaincre 3 mecs, 5 mecs, 10 mecs. Et aujourd'hui, on en a 35, tu vois.
À Paris, uniquement?
Non, partout en France.
Partout en France.
Partout en France.
Et comment vous les sélectionnez, ces gens?
Alors, sur plusieurs critères. Sur le look global de leur fringue. Ouais. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on a une cliente qui est très précise. C'est une nana qui a entre 25 et 35 ans, qui est citadine, qui aime être unique, si tu veux, dans son style. Et qui, du coup, apprécie la qualité de la fringue, la beauté de la fringue, et qui aussi se dit, je suis la seule à la voir, tu vois. Je suis la seule à la voir, c'est un pull des années 70, c'est une blouse brodée des années 70, c'est un sweater des années 90, j'en sais rien, mais genre, de mes copines, personne l'aura, je suis la seule à la voir, et c'est grâce à ça que j'exprime qui je suis, et voilà. Donc, du coup, on sélectionne pas, par exemple, tous les mecs qui sont dans la fripe dure, c'est-à-dire tous les mecs très 90 avec des jogging Adidas, etc. C'est pas notre
cœur de cible.
C'est pas notre cœur de cible aujourd'hui. Quand on ira sur des teenagers, je pense qu'on s'ouvrira à ce genre de personnes, mais pour le moment, c'est pas ce qu'on sait faire.
Mais aujourd'hui, vous avez vraiment sélectionné qu'un cœur de marché, quoi.
Exactement. Nous, c'est un style qui est très simple, c'est très 70s. C'est très actuel, c'est du pas de def, enfin c'est du flair, c'est.
Ouais, vous êtes positionné sur la mouvance d'une Jeanne Damas, de voilà, dans cet esprit là, quoi, cette mouvance là.
Ouais, non mais t'as raison. Ouais. Oui, c'est, on est dans cette mouvance là de romantique 70s retwisté au goût du jour, quoi.
Ok.
C'est ce qu'on sait faire et puis en plus c'est ce qu'on aime porter, donc voilà.
Très bien.
Donc on va chercher les mecs
comme ça.
Sur leur style, sur la qualité du coup des fringues, sur la propreté, est-ce qu'ils y font hyper gaffe, tu vois, est-ce qu'ils relèvent tout, est-ce qu'ils reprisent s'il faut, voilà.
Et comment vous avez réussi à les convaincre, ces gens-là?
Mais c'est pas compliqué en fait. Mais ça est...
Parce que non, mais ce que tu te dis, ces gens-là, ils ont l'air un peu... ce que tu disais tout à l'heure, c'est horrible de dire ça, mais ils ont un côté un peu arriéré dans leur fonctionnement. Et je sais pas quelle a été leur réaction. Ils se sont dit non, mais c'est bon, en fait, elles m'apportent du business, ces deux filles, c'est génial.
Alors,
quoi.
C'est des mecs qui sont tout sauf arriérés dans le business. C'est des mecs qui ont une sensibilité de fou, qui connaissent leur clientèle par cœur. Souvent, c'est des gars qui sont là depuis très très longtemps, qui sont des filles ou des fils de fripiers eux-mêmes. Tu vois, ils se passent la boutique de génération en génération, etc. Nous, les vendeurs avec qui on travaille, c'est une source d'émerveillement et de joie et de d'apprentissage business tous les jours, quoi. Je pense qu'ils nous apprennent beaucoup 30 fois plus que nous on leur apprend ou on leur apporte, tu vois.
D'accord.
Ils nous apprennent sur les vêtements, ils nous apprennent sur c'est incroyable. Et en plus de ça, c'est des mecs qui ont une générosité si tu veux, incroyable. Donc, notre première clientèle, nous on le sait, tu vois, c'est nos vendeurs. Nos vendeurs, c'est nos chouchous absolus. On y fait hyper attention. Mmh. On les câline, on les appelle tous les jours. On fait en sorte qu'ils soient vraiment heureux. On est vraiment aux petits soins pour eux. Donc, comment on les convainc? C'est un, on dit qu'on a un respect énorme pour ce qu'ils font, parce que c'est vraiment très compliqué. Qu'on comprend que c'est compliqué et que nous, notre fonction et notre mission, c'est de faire en sorte que leur vie soit plus simple. Mmh. En leur ouvrant un canal de vente supplémentaire. Mmh. Qui n'est pas un canal qui est en compétition avec leur boutique, qui est un canal qui s'ajoute à leur boutique. Donc nous, on leur dit, globalement, on vous respecte, on adore ce que vous faites, on comprend la complexité du travail. Nous, on va juste essayer de vous alléger un petit peu la tâche en s'occupant du digital pour vous. Mmh. Ils sont vraiment très compliqués à convaincre, parce que certains, ça fait 1000 ans qu'ils font la même chose et je te dis, ils se transmettent le truc de génération en génération. Donc, c'est difficile, si tu veux, d'arriver à leur faire comprendre qu'il y a une autre voie.
Et puis, ça fonctionne pour eux.
Et que ça fonctionne. Maintenant, quand on arrive à les faire tester, il n'y en a pas un qui est parti. On a en plus, et puis tu vois, enfin nous c'est vraiment une source de motivation tous les jours. Là, il y a pas très longtemps, on a une de nos vendeuses qui nous a écrit, qui nous a dit merci les filles, grâce à vous j'ai fermé la boutique pendant 2 semaines en août, ça m'était pas arrivé depuis 20 ans. Bah ça, tu vois, on l'a imprimé en énorme, on l'a affiché au bureau, parce que ça, tu vois, c'est le genre de truc qui me fait dire putain, bah, ce qu'on fait, c'est bien et ça crée de la valeur pour des gens qui en valent la peine et en plus on arrive à faire des heureuses chez nos clientes qui ont des pièces uniques, tu vois.
Il y a un petit bébé qui a envie de se faire entendre derrière, mais c'est pas grave. Le fonctionnement avec eux, le process que vous avez mis en place, c'était quoi? Parce que moi, enfin, là, a priori, quand tu me dis ça, je me dis ça veut dire qu'ils doivent aller chercher des pièces qui correspondent à votre direction artistique et à votre patte à vous, imparfaite. Dire qu'ils ont le stock chez eux, c'est eux qui prennent les photos. Les photos qu'on voit sur Instagram, est-ce que c'est vraiment les pièces qu'on va voir sur votre site internet aussi? J'ai plein de questions
Sur le fonctionnement, globalement, donc nous on est une marketplace, donc effectivement toutes les pièces que tu vois sur le site, c'est des pièces que nous on n'a pas physiquement vues.
Ouais.
Mais en revanche, c'est des mecs, c'est des fripiers ou des vendeurs de seconde main qu'on connaît bien.
Ouais.
On sait la qualité de leurs vêtements, on sait comment ils les choisissent, on sait globalement que quand on va les récupérer, elles vont être nickel chrome. Ouais. Donc c'est vraiment une relation de confiance, tu veux, qu'on crée avec eux. Comment ça se passe concrètement? C'est effectivement, on a un cahier des charges. Petit à petit, en fait, grâce aux images qu'on a créées, grâce à nos shootings, etc., ils ont notre image imparfaite dans l'œil.
Ils ont compris.
Ils savent, tu vois, ils comprennent. Et puis, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est des mecs qui ont une connaissance
ils sont sharp, ils connaissent.
Ils savent, tu vois. Ouais. Genre, tu leur dis oui, alors nous... Non, c'est bon, m'explique pas, j'ai compris, tu vois. Et effectivement, à chaque fois, c'est spot on. Donc, ils vont... Souvent, c'est des choses qu'ils ont déjà en boutique. Mm. Et après, effectivement, ça les aide dans leur prochaine chine. Quand ils savent ce que nous on cherche et qu'ils voient une pièce qui nous intéresse parce qu'ils le savent, on leur a dit, et ben ils l'achètent pour nous et ils le foutent sur le site. Comment ça fonctionne concrètement? On a développé des outils pour eux. Donc l'objectif c'était de développer des outils qui étaient les plus faciles et les plus rapides possibles. Parce que c'est des gars qui vont pas sur Etsy parce que c'est trop compliqué, tu vois.
C'est vrai qu'Etsy c'est une galère.
C'est galère.
J'ai essayé de vendre un truc, c'est horrible. J'ai arrêté quoi.
Bah tu vois. Donc quand t'as des tonnes et des tonnes de fringues dans ta boutique, t'as pas le temps de passer un quart d'heure globalement à enregistrer la moindre de tes pièces quoi. Ouais. Surtout que tu sais que potentiellement ça a 50% de chances d'être vendu dans ta boutique. Enfin bref, c'est trop compliqué pour réagir. Donc nous l'idée c'est qu'on leur a fait des outils qui étaient hyper faciles. D'où le fait que dans les premiers mois on est passé énormément de temps avec eux, se rendre compte que c'était pas des mecs qui étaient digitaux friendly. Bah, ça nous a permis derrière de dire ok, il faut qu'on fasse des trucs qui sont utilisables par des enfants parce que ils ont pas le temps, tu vois.
Donc vous avez développé un outil pour eux.
Ouais, on a des outils qui sont développés pour eux qui leur permet en gros en 45 secondes d'enregistrer une pièce chez nous. C'est un petit truc, si tu veux, qu'ils installent tac 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 en 3 minutes, enfin du coup en 45 secondes, ils nous envoient une pièce en modération chez nous. Nous on a une équipe de stylistes chez nous qui regarde du coup tout le flux en 30 pièces qui resélectionne derrière. Maintenant, si nous on fait bien notre travail en sales, en gros la sélection elle est hyper simple parce que toutes les pièces en 30 elles sont déjà préqualifiées par les vendeurs. Tu vois. Après on crée les fiches, on met ça en ligne, Nous, on se charge de tout le traitement de l'image, etc. Parce que tu as vu sur le site, tout est détouré, tout est un petit peu homogénéisé pour faire en sorte que ce soit beau. Quoi.
Ils envoient une photo comme ça, ils posent la fringue par terre, ils la prennent en photo avec leur iPhone et basta. Quoi.
Ouais, pas par terre, ils l'accrochent au mur, mais ouais, on a un petit système où on leur explique qu'on veut que la fringue soit accrochée au mur, gna gna gna. Ils ont un cahier des charges, ils font ça. Ils nous l'envoient, ça arrive en modération. On dit on prend pas. Quand on prend, c'est parti, ça part en traitement d'image. Une fois que c'est en traitement d'image, ça revient. Nous, on crée l'affiche, on le met en ligne. Une fois que c'est mis en ligne, on fait tout le service client. On fait toute la mise en valeur des pièces pour eux. C'est-à-dire qu'on fait des pushs sur Instagram, on fait des newsletters, etc. Et une fois que c'est vendu, on prend une commission sur la vente de 20%.
D'accord. Donc là, c'est 20%. Vous prenez que
20%. Sachant que dans le 20%, c'est 20%. Okay. 20%. Et sachant que dans les 20%, ça comprend tous les frais d'envoi, ça comprend tout le service client. Et voilà.
Est-ce que vous apportez tout ce service-là aussi?
Exactement.
Toute la logistique,
tout le shipping,
etc.
Toute la logistique, etc. C'est nous qui le faisons. Parce que l'objectif, c'est vraiment de simplifier, si tu veux, la vie des vendeurs pour qu'ils nous apportent leurs meilleures pièces, pour qu'on puisse avoir la meilleure sélection pour nos acheteurs.
Donc eux, leurs pièces, ils la mettent de côté?
Pas forcément, ils peuvent la laisser en boutique.
Ils peuvent la laisser en boutique aussi, d'accord. Ouais. Et ça arrive pas que la pièce soit prise déjà et...
Bah, ça arrive très rarement.
Et que vos clients soient déçus?
Si, c'est déjà arrivé, très honnêtement, c'est déjà arrivé. Mais ça arrive... Enfin, là, depuis un an, ça a dû vous arriver deux fois, tu vois. Où, en gros, il y a une vente qui est quasi simultanée dans la boutique et sur le site. Mais c'est un cas... c'est négligeable, quoi.
Très bien. Sur la partie communication, direction artistique, image, etc.
Comment ça fonctionne?
Ouais, comment ça fonctionne? Enfin, c'était. Attends, excuse-moi, on coupera à ce moment-là. Mais. Sur la direction artistique, comment. Qu'est-ce qui choisit ce parti pris-là?
Alors. C'est Ariane, toute la partie artistique, tu sais, je t'expliquais, nous on a eu un fonctionnement où on est très clair sur qui fait quoi. La partie artistique, c'est Ariane à 100%, c'est vraiment l'expertise métier, si tu veux, Ariane, tout ce qui est en rapport à la fringue, c'est vraiment chez elle. Et alors la raison pour laquelle nous on a un truc qui est très fort chez Imparfaite, c'est que on veut, la mission encore une fois, c'est démocratiser le vintage. C'est-à-dire faire en sorte qu'on convertisse des femmes au vintage, que des femmes qui vont en fast fashion, etc., se disent il y a une autre voie, il y a une voie alternative qui existe à tout ça, qui est une voie plus éco-responsable et surtout qui est une voie plus exclusive parce que ta pièce, elle est unique, il y a que toi qui l'auras, etc. Ouais. C'est des matières nobles, voilà. Et pour un petit budget, mine de rien, ça reste un petit budget parce que nous, on a des prix qui sont alignés sur ce Zara.
Ouais, c'est ça la question que je voulais te poser tout à l'heure et elle m'a échappé. C'est vrai que vous êtes vraiment pas cher.
Bah alors, tu vois, c'est marrant parce que on entend plein de choses sur nos prix. On entend, c'est vraiment pas cher, comme toi. Parce que nous, on trouve pas que c'est pas cher, on trouve que c'est juste, tu vois. Y a d'autres personnes, au contraire, qui disent, ah, mais c'est hyper cher.
Mais c'est sûr, comparé à Guérisol, où tu achètes ton truc à 3 euros, tu fais une trouvaille incroyable, c'est cher.
Exactement. Alors du coup, il y a un truc sur nos prix, c'est que, un, on est exactement aligné sur les prix de Zara. C'est-à-dire que en ce moment ils ont des vestes en velours côtelé à 79 €. Chez nous, elle est entre 59 et 79 €. Tu vois. Ta blouse brodée en coton incroyable et tout. Nous, c'est entre 39 et 49 €. C'est exactement les prix de Zara. Après, effectivement, on n'a pas toute leur entrée de gamme. C'est-à-dire, on n'a pas le t-shirt en polyester uni à 19 €. Tu vois. Ça, on l'a pas. Effectivement.
Et vous l'aurez pas.
Et on l'aura pas parce que c'est pas notre positionnement. Nous, on veut des jolies matières, des belles coupes, et on veut un truc, si tu veux, qui a été fait quasiment à la main, de
des
manière un
pièces,
peu
quoi.
Des belles pièces.
Ouais.
Donc, effectivement,
pas
quand tu vas sur le site, si tu compares le site de Zara et notre site, t'as pas toutes les pièces en entrée de gamme. Donc, effectivement, t'as l'impression que c'est plus cher, alors que c'est à produit égal, c'est exactement la même chose. Autre chose, si tu nous compares avec effectivement des friperies, voilà, Guérisol, tout ça, c'est des bacs, c'est pas lavé. Nous, on a un vrai truc où on choisit les pièces à la main. On sait que chaque pièce a été checkée au moins deux fois, qu'elle a été lavée, qu'elle est propre, etc.
Ouais, vous apportez un vrai service.
On apporte un vrai service, tu vois. Après, nous, on se compare beaucoup aussi à des marques. Tu vois, des types justement rouges, tu vois, Musier, etc. Parce que c'est dans l'air du temps, parce que on essaye d'avoir des pièces qui sont au moins aussi jolies, tu vois, avec un apport esthétique aussi fort. Et dans ce cas-là, effectivement, chez nous, tu as une robe à 79 €, tu vois. qui sont des robes fleuries, qui sont canons. Et tu sais que ça fait 50 ans qu'elle a pas bougé et que globalement tu vas pouvoir t'amuser dessus encore quelques années, tu vois. Donc voilà. Donc il y a tout, si tu veux. Et je pense que faut qu'on éduque aussi un petit peu quelque part notre clientèle en leur disant. Vous avez l'impression que c'est des trucs qui sortent de bac parce que c'est ce que vous voyez en friperie, mais c'est pas du tout notre traitement ici, tu vois. Nous, on les choisit chacune à la main, on les relave, on fait attention, on les reprise, on y fait gaffe, on les chouchoute, on les aime pour vous avant de vous les envoyer. Donc non, en fait, on les met pas à 10 balles dans un bac, quoi.
Sur le choix des filles que vous prenez sur les shootings pour Instagram. Ça coûte quoi des filles comme ça? Parce que vous prenez pas des petites, vous prenez pas plus votre copine, quoi. Vous prenez vraiment des filles qui sont des influenceuses, etc., qui coûtent un peu d'argent.
On a trop de chance parce que en vrai, c'est des nanas qui adorent le projet. C'est des fans de vintage elles aussi, et c'est des filles qui adhèrent vraiment, si tu veux, à la mission. Et du coup, ça, enfin, concrètement, c'est pas des choses, c'est pas ce qui coûte le plus cher du tout.
D'accord.
Parce qu'on leur file des fringues, parce qu'on leur explique le projet, parce qu'elles adorent ce qui se passe, tu vois. Inès Melia, par exemple, qui est une nana qu'on adore, enfin vraiment, c'est notre chouchou, quoi. Elle, on lui a expliqué ce qu'on voulait faire, et elle a aimé le projet, si tu veux, et du coup, elle est venue on board avec nous carrément dès le départ. Et quand tu parlais de la direction artistique, donc ça, c'est Ariane qui le fait, et ça, les images pour nous et les looks, c'est hyper important parce que ça montre aux femmes aujourd'hui qui sont peut-être encore réticentes à aller en vintage que le vintage, c'est pas seulement ton déguisement années 70 du samedi, quoi. C'est-à-dire que en vrai, tu peux t'habiller 100% vintage et tu peux avoir des looks de dingue. Tu peux être hyper moderne, pas du tout avoir l'air déguisé, tu vois. Tu peux avoir une vie normale et être habillé en vintage, tu vois.
Et ça, c'était un parti pris tout de suite de prendre des influenceuses qui ramènent des gens sur Instagram, quoi. Parce que votre compte Instagram, il a quand même grossi assez rapidement. Aujourd'hui, vous êtes à 27 000 followers. C'est-à-dire, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ta stratégie d'acquisition de new followers sur Instagram. Mais ça, j'imagine que ça a joué un rôle énorme.
Ouais, en vrai, je vais te décevoir parce qu'on n'a aucune stratégie d'acquisition aujourd'hui.
Ouais.
Toute notre acquisition, elle est organique. C'est-à-dire que c'est juste du bouche à oreille. Et c'est la raison aussi pour laquelle on voulait pas trop parler d'imparfaite, tu vois, en dehors de délivrer du travail, parce que notre parti pris, c'était de dire il y aura personne qui parlera mieux de nous que nos clientes satisfaites. Donc faisons gaffe à faire en sorte que chaque expérience, chaque ouverture de boîte soit un délice, pour qu'elles en parlent, pour qu'elles elles postent sur les réseaux sociaux pour nous, parce que nous, en parler et dire qu'imparfaite c'est génial, c'est bien, mais enfin je suis biaisée forcément, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a été. Là, ça fait un an qu'on s'est dit, on ne parle pas, on ne se défocalise pas à essayer de parler d'imparfaites ailleurs que sur notre chat, sur le service client, quoi. Et on a fait pareil, si tu veux, sur Instagram, et on a fait pareil avec les influenceuses, on a fait pareil avec. On n'est pas allé les voir, ces nanas-là, parce que c'était des influenceuses. On est allé les voir parce que c'était des filles avec des gueules incroyables, qui avaient tout un truc, si tu veux. C'est pas des filles lisses, c'est pas des filles. Ces filles qui ont des trucs à dire, si tu veux, généralement, ok, certaines sont des modèles et elles gagnent de l'argent comme ça, mais par ailleurs, c'est des actrices, par ailleurs, c'est des peintres, par ailleurs, c'est des. Elles font autre chose, tu vois. Elles font autre chose, c'est des filles avec des trucs dans la tête, et nous, quand on passe une journée avec elles à shooter et à parler vintage, on s'éclate, quoi. C'est des moments de pur bonheur, on se marre trop, quoi. On se marre trop, et puis on parle vintage, on s'éclate sur des fringues, sur des looks, on dit mon Dieu, mais ça c'est absolument magnifique. Et elles-mêmes, souvent d'ailleurs, deviennent nos clientes juste après parce qu'elles ont vu ce qu'on avait, tu vois.
Quand vous avez construit la marque Imparfaite, est-ce que vous avez utilisé une framework? Ça serait quoi la personnalité d'Imparfaite si c'était une personne? C'est vous?
C'est dur comme question. Comment on a construit? En fait, encore une fois, on n'avait pas. On post-rationalise la marque. Quand on l'a lancée, il y a un an, on avait besoin d'un nom. On a dit Imparfaite.
Pourquoi?
Alors, pourquoi? Au départ, c'est drôle parce que c'était hyper discriminant aussi comme nom. Il y a plein de personnes, plein de nos potes, tu vois, parce qu'on a fait quand même un petit tour de nos copines pour savoir si ça plaisait. Plein de potes disaient, oh, c'est hyper négatif, imparfaite. Puis moi, quand j'achète des fringues, j'ai envie d'être parfaite. Donc pourquoi, etc. Enfin, ça passait pas très bien. Et puis on avait une vraie conviction sur ce nom-là, on le trouvait génial et tout. Pourquoi? Parce que, un, on est toutes imparfaites, si tu veux, et c'est heureusement parce que ça nous rend uniques. On a tous toutes et tous quelque chose qui déconne, et tant mieux, et au contraire, nous on pense qu'il faut le valoriser parce que c'est ce qui fait que t'es génial dans ton genre, tu vois. Et puis parce que ça vaut pas le coup de se stresser à être parfaite, tu vois, les magazines, machin, etc. Parce que de toute façon, tu y arriveras pas, c'est pas qui t'es, et essaye de mettre de l'effort à être qui t'es et à te développer en tant que, en tant que personnalité plutôt que d'essayer de stick à des box. Le deuxième truc, parce que notre fringue, elle est pas parfaite. Nous, ce qu'on vend, c'est pas parfait. Nous, ce qu'on vend, ça sort pas d'une usine, c'est pas plié par quelqu'un à l'autre bout du monde. Non, nous, ça a été porté, ça a une vie, ça a de l'histoire, ça a un caractère, ça vient avec son passé, tu vois, avec son bagage, et c'est pour ça que c'est beau, tu vois. C'est que la fringue, elle est pas parfaite comme toi, et elle est unique en revanche comme toi, tu vois. Et l'autre truc, c'est parce qu'on aimait bien le à l'imparfait, le rapport au passé, tu vois. On aime beaucoup cette histoire de transmission de génération en génération. Nous, il y a un truc qui nous anime beaucoup dans le vintage, et c'est pour ça qu'on aime, c'est que c'est nos mères, tu vois. Le vintage, quand tu parles de vintage, tu penses forcément à
aux fringues de ta mère.
Tu vois, aux fringues de ta mère ou à la malle de ta grand-mère, à un truc que tu es allé récupérer, tu vois. T'as ce côté émotionnel qui est hyper fort, tu vois.
Et pourquoi choisir un nom français alors qu'on a envie de croquer le monde?
Parce que ça marche hyper bien ailleurs. Parce que si tu dis imparfait, c'est assez international pour que les gens comprennent que c'est...
C'est français.
Français. Et que ça veut dire imperfect, tu vois. Donc, au contraire, nous, on marche très, très bien aux US.
Ouais, votre marché aujourd'hui, c'est quoi? US.
C'est moitié... Ouais. C'est
beaucoup US.
C'est beaucoup US. C'est beaucoup US. C'est moitié-moitié aujourd'hui. Mais étonnamment, en fait, on marche très, très bien aux US. Et elles adorent ça parce qu'elles s'achètent un petit bout de Paris, tu vois. Donc...
Et donc, pour revenir sur la personnalité de la marque,
C'est une femme. C'est un peu comme toutes les muses, tu veux. C'est une femme qui croque la vie à pleines dents, qui est libre, qui est artiste, qui a du plomb dans l'esprit et dans la tête, qui a des ambitions, qui est. Et qui adore la mode parce que. Non pas parce que ça la rattache à un milieu, mais juste parce que ou à une catégorie sociale, etc. Mais parce qu'elle, ça lui permet d'exprimer qui elle est, quoi.
Et ça me fait penser à un autre truc. Je trouve que la dimension sustainable et défense de notre planète, vous le mettez pas trop en avant, ce truc-là.
Ouais, t'as raison.
Contrairement à, tu vois, à Maison Cléo ou à Patine, qui sont sur des modèles qui sont vraiment différents, qui eux, c'est vraiment c'est un peu un étendard quand même.
Parce que nous, en gros, on veut pas. Déjà, on veut pas culpabiliser les gens. On trouve ça très. Enfin, on veut pas être moralisatrice en mode attention, tu achètes du fast fashion, c'est pas bien, bouh. Parce que déjà, nous, on a acheté du fast fashion quand même.
Patine et Maison Cléo sont pas moralisateurs. Je voudrais pas que.
Non, c'est vrai. Mais c'est-à-dire, Maison Cléo non plus, elle dit pas I'm sustainable, achète chez moi.
Ouais, elle le met pas du tout en avant.
Patine, à la limite, un peu plus. C'est un peu plus dans son manifesto, mais c'est fait d'une manière fun et rigolote et ça colle vraiment à sa personnalité et à qui elle est, tu vois. Marie, chez Maison Cléo, elle est au contraire, elle met en avant le fait que c'est fait main, que c'est à la demande, que c'est une histoire de mère et de fille. Tu vois, c'est le storytelling qui est vachement plus important que je ne produis pas en Chine. En vrai, elle dit jamais ça, tu le vois nulle part. Nous, c'est pareil, c'est-à-dire que nous, on veut pas culpabiliser les gens en leur disant attention, vous achetez du fast fashion, c'est pas bien, on vous tape sur les doigts, parce que si t'achètes du fast fashion, mais que tu gardes ta fringue 10 ans, que tu fais hyper attention et que t'as une consommation raisonnée, bah tant mieux, en fait, tu fais pas de mal par ailleurs. Sauf que personne fait ça, ça c'est un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on dit, c'est juste. On a des super looks, on a des super fringues qui ont une histoire à raconter, qui sont uniques, qui vont te permettre d'être unique et de pas ressembler à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et par ailleurs, ça fait du bien à la planète dans la mesure où on n'a rien dépensé en termes d'énergie, etc. pour faire en sorte que ça arrive chez toi.
Un peu pour shipper quand même.
Hors shipment.
Vous avez pas mal de retombées presse aussi quand même. Vogue, Glamour, Madame Figaro, etc. Vous avez été le chercher ou c'est venu naturellement?
Mon Dieu, mais je te dis, on n'a aucune stratégie. Enfin, c'est pas bien d'ailleurs. Enfin, faudrait pas que je le dise publiquement. On n'a aucune stratégie d'acquisition aujourd'hui. On est en train de travailler dessus en ce moment même.
Mais c'est en même temps, c'est très tech comme truc de dire, ok, on fait un putain de bon produit, le meilleur produit possible. Il faut que ce soit le plus efficace possible. Et naturellement, si ton produit est bon, et ben on parlera de toi, quoi.
Ouais, c'est vrai, mais ça a une limite, tu vois quand même. C'est-à-dire. Nous, on est très produit first. T'as tout à fait raison. Nous, là où on croit fort, c'est il faut faire en sorte que l'expérience de ta cliente soit nickel, qu'elle soit hyper heureuse pour qu'elle rachète chez toi. Et nous, on est hyper heureuses aujourd'hui parce que on a 80% de notre clientèle qui n'achète pas du vintage en temps normal, qui achète chez nous. Donc, on se dit, OK, on arrive à convaincre les femmes grâce à nos looks qu'elles peuvent acheter du vintage et que ça correspond à quelles sont. Et en plus de ça, on a un gros taux de repeat à l'achat. Donc, on a la grosse majorité des filles qui achètent une fois chez nous, qui rachètent derrière. C'est-à-dire qu'elles sont heureuses de leur expérience et qu'elles rachètent derrière. Donc ça, on est contente, on sait que ça marche. Maintenant, on sait que on a besoin d'accélérer et qu'on veut accélérer pour recruter plus de vendeurs, pour aller toucher beaucoup plus large, etc. Donc ça, il y a un moment, il va falloir qu'effectivement, on ait une stratégie, si tu veux, de communication sur notre projet. Et on est en train d'y penser maintenant parce qu'on a recruté un CTO qui est capable de faire tourner le site sans nous.
Donc CTO, enfin, c'est quoi alors?
C'est un Chief Technical Officer. C'est-à-dire, c'est un tech guy, c'est un mec qui fait le site et qui code, si tu veux, tout ce qui se passe sur notre site et qui met en forme ce que nous, on a comme stratégie dans notre tête. Quoi.
Et on va le chercher où, un mec comme ça?
Alors, figure-toi que ça a été la croix et la bannière. Je pense que ça a vraiment été ma mission la plus compliquée sur l'année dernière, chercher un CTO. On a vraiment pas de chance en ce moment, les startups, c'est que on est vraiment... On a le marché en notre défaveur sur le marché du CTO. Il y a peu de mecs bons, très peu de mecs bons. Ils sont excessivement chers et ils ont pléthore d'offres. Donc, ils sont hyper piqués sur les projets qu'ils cherchent.
Et ils coûtent très cher, alors.
Et ils coûtent excessivement cher.
Mais ça coûte quoi, un CTO, un bon?
Ah bah, en vrai, t'as rien en dessous de 50 000 euros par an. Ce qui est cher quand t'as
pas d'argent. Quand tu démarres avec pas beaucoup d'argent.
Quand t'as pas d'argent.
Et tu peux pas aller les chercher sur des plateformes à l'étranger? Parce que tu as envie d'avoir physiquement avec toi, le mec?
T'es obligé d'avoir. Nous, on a un projet qui est trop ambitieux techniquement pour qu'on n'ait pas toute l'équipe technique en interne. Impossible.
Avec qui tu peux parler tous les jours en direct, quoi.
Ah ouais, t'es obligé. Il doit être responsable de tes codes, il doit être responsable de ta tech, il doit driver, si tu veux, la vision de long terme. Il est obligé d'être intégré. Mais même, enfin, nous, pour le coup, ce mec-là, maintenant, c'est le troisième de l'équipe, quoi. Enfin, c'est-à-dire, tout ce qui est stratégique, si tu veux, on parle avec lui parce qu'on est censé savoir est-ce que c'est possible techniquement de le mettre en place ou pas, quoi.
Et vous l'avez intéressé au business?
Alors, pas encore, mais enfin, t'es obligé à un moment d'intéresser.
Comment vous l'avez convaincu de venir?
Juste, c'est un mec qui adore ce qu'on fait. Je pense qu'il aime beaucoup Ariane et moi et notre manière de considérer, si tu veux, le business. Tu sais, quand tu rejoins une équipe comme ça en amorçage, tu vois, quand t'as pas beaucoup encore de track record, t'as une belle croissance, mais c'est tout ce que t'as, tu vois. Tu crois aux gens avant, je pense.
Ouais.
Donc, je pense qu'il a cru en nous, il a cru à l'aventure. On lui a montré où on voulait aller. Et la big picture lui a fait envie, tu vois.
Ouais.
Donc c'est ça. Mais honnêtement, c'est hyper, hyper compliqué. Surtout que nous, on est sur un marché quand même de fringues, de nanas. Et mine de rien, quand tu t'as un mec qui est un peu geekeux sur son ordinateur, c'est difficile, tu vois, de lui vendre. On va révolutionner le vintage. C'est pas un domaine avec lequel il a de l'affinité normalement à l'origine.
Pour revenir sur la com, j'ai vu que vous aviez participé à We Love Green. Pourquoi? Et ça vous a servi à quoi? Comment vous l'avez fait?
Écoute, typiquement, ça a été génial parce que en fait, ça nous a permis de rencontrer pas mal de gens. On a plein de filles qui sont venues nous voir en mode ah, je vous suis sur Instagram, je suis venue exprès pour venir vous voir et tout. Donc ça, c'est génial. Après, ça correspondait vraiment aussi à notre engagement, tu vois, la We Love Green, le recycler et tout le green. Donc on avait envie de s'inscrire un petit peu plus dans ce mouvement-là. Après, est-ce que ça nous a servi à grand chose? Je sais pas, parce que ça nous a sorti quand même du bureau pendant trop longtemps, alors qu'il fallait qu'on ship et qu'on délivre beaucoup plus sur sur notre technique. Donc, je pense que, enfin, tu vois, typiquement, on n'en a pas refait depuis parce que on s'est dit, il faut pas qu'on se défocalise trop de la mission. Passer 3 jours à parler d'imparfait, c'est génial, mais du coup, tu reviens crever et t'as pas avancé sur ce qu'il fallait faire.
Sur donc la stratégie d'acquisition, tu me dis aujourd'hui.
Aujourd'hui, malheureusement, on n'en a pas. Enfin, on n'en a pas. C'est en train de se mettre en place parce qu'on veut grossir plus vite et parce que l'organique, pour le moment, ça fonctionne, mais on veut aller plus loin, si tu veux, et accélérer.
Mais ils viennent d'où aujourd'hui, les gens?
D'Instagram, effectivement. Ils viennent de Facebook. Ils cherchent sur Google. Ils cherchent vêtements vintage et ils nous trouvent. Donc, tu as du direct. Et voilà.
Et Facebook, tu penses qu'aujourd'hui, il faut encore investir du temps dessus?
Je te dirais dans quelques semaines. Parce qu'en vrai, on est en train de... Là, on a un produit qui roule. avec une roadmap technique qui est super ambitieuse, mais on a un mec de dingue qui est en train de s'en charger, en gros.
Une roadmap technique, ça veut dire c'est toute la stratégie technique.
C'est toute la stratégie technique, si tu veux, qui est déroulée sur 6 mois, 1 an.
D'accord.
Donc, on a recruté donc ce CTO. On a mis en place une stratégie technique, si tu veux, avec lui sur plusieurs mois. Et là, il est en train de dérouler, si tu veux, sa roadmap, c'est-à-dire il crée ce qu'on techniquement, il code ce qu'on veut faire.
Et quand tu crées ta roadmap technique, tu c'est toutes les trois, vous, enfin tous les trois, tous les deux fondatrices et lui, ou vous faites appel à quelqu'un d'autre à l'extérieur?
Non, moi je suis responsable du produit, donc moi c'est avec moi qui travaille le CTO. Ce que je t'ai dit, on a réparti les tâches de manière très drastique avec Ariane. Ariane, elle, c'est l'image, le métier, la sélection des fringues, etc. Et moi, je suis toute la partie digitale, sales et marketing.
Et ça implique que c'est toi qui as la décision finale sur ta partie.
Exactement.
Et elle de sa partie.
Exactement.
Mais tu as quand même un droit de regard et elle a le droit de regard sur ce que tu fais.
Non.
D'accord.
Non. C'est en vrai, on se fait confiance. Si on a monté cette boîte ensemble, c'est parce qu'on respecte, si tu veux... les capacités de chacune sur son domaine. Donc, elle me pose pas de questions. On est d'accord sur la... Si tu veux, on échange tout le temps avec Ariane. Je suis tous les jours avec elle au téléphone, week-end inclus. On fonctionne de la même manière. En revanche, je lui fais une confiance aveugle sur ses sujets et elle me fait une confiance aveugle sur les miens. Du coup, à partir du moment où on sait où on veut emmener le bateau, chacun sait ce qu'il a à faire et c'est à elle de prendre ses décisions et moi, je prends mes décisions sur mes sujets. À tel point que y a des choses, c'est marrant, on en parlait il y a pas très longtemps. Il y a des choses que je fais où elle est pas du tout au courant, et tant mieux parce que ce serait perdre son temps à elle, alors qu'elle a autre chose à faire sur sa partie.
Et je pense que ça lui encombrerait l'esprit.
Ça lui puis ça sert à rien d'avoir deux têtes de décision, tu vois. De temps en temps, je lui parle parce que c'est plus pour me rassurer, si tu veux, sur certains trucs où j'ai besoin qu'elle me dise OK, c'est bon. Mais je sais que c'est plus pour moi, pour me rassurer moi, que vraiment parce que je lui demande un avis, parce que je l'ai déjà fait et c'est ma responsabilité de prendre cette décision-là, tu vois ce que j'ai. Donc, par exemple, j'en parlais la dernière fois. Nos investisseurs, on a déjà des investisseurs, n'ont jamais rencontré Ariane. Tu vois, c'est drôle.
C'est fou.
Parce que, en gros, quand je leur disais, non, moi, Ariane, c'est important qu'elle soit sur le terrain, c'est important qu'elle sélectionne des vêtements, c'est important qu'elle fasse des looks et qu'elle shoote. Là, en fait, elle n'a pas le temps de faire le tour des popotes pour aller parler finances, quoi. Donc, je lui fais confiance, elle me fait confiance. Et si ça vous intéresse de mettre de l'argent chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi.
Au démarrage, tu me disais que vous aviez commencé avec Spotify. Donc, j'imagine que maintenant, vous êtes sur WordPress.
Non, on a commencé avec ça s'appelle un CMS qui s'appelle Shopify. Et en gros, t'en as d'autres, hein. T'as Shopify, t'as WooCommerce, t'as WordPress, hein, t'en as plein. Et on est encore sur Shopify. Mais c'est un outil qui nous ralentit aujourd'hui dans la croissance parce que c'est pas des outils qui sont faits pour avoir autant de produits que nous. Donc on est en train de migrer sur une autre solution. Donc ça fait partie de la roadmap technique que le dev est en train de mettre en place.
D'accord. Et l'autre solution technique, c'est quoi?
C'est de faire des trucs en propre.
D'accord. Donc c'est développer ta propre plateforme à toi. Ouais. Ok. Et ça, il faut avoir un CTO, un mec qui sache coder, etc.
Et ça, clairement, tu peux pas le faire tout seul. Quoi. Ouais.
Et en Customer Relationship Management, vous aviez des outils au départ? Enfin, Spotify l'intègre automatiquement.
Ouais.
Est-ce que vous collectez vachement de données,
Spotify,
quand même?
Spotify, c'est de la musique, tu sais.
Ah oui, pardon. T'as raison.
On fait tout
Shopify,
le temps.
Shopify, ok.
Ouais. En Customer, tu fais avec les outils qu'il y a, tu vois. Donc, t'as un petit truc qui s'appelle Crisp, qui est une boîte d'ailleurs de chez The Family, qui est un truc de customer, tu sais, ça te fait ton petit chat, tu vois, quand tu rentres sur un site internet et que t'as le petit pop-up, tu vois, qui ouvre et qui dit coucou, je suis là si tu as besoin. Bah ça se plug sur ton site. Donc tu le plugs sur ton site, ça prend 2 minutes, hein. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en vrai,
c'est très simple.
Enfin, j'encourage tous ceux qui écoutent à juste à parler à beaucoup de personnes, si tu veux, qui sont dans l'écosystème. Si tu veux sortir un site, que ce qui soit technique ou pas, si tu veux créer ta marque de mode et juste tu veux avoir un site internet, t'as plein d'outils qui existent déjà, qui sont disponibles, qui coûtent vraiment pas cher et qui te permettent de tester, tu vois. Donc il suffit juste de prendre ton courage à deux mains, de te faire un logo, d'avoir 2-3 prototypes de tes fringues, de les mettre sur un joli site, de mettre un bouton en dessous précommande, ne surtout pas partir en production ou faire quoi que ce soit qui engage financièrement sans avoir testé qu'il y avait un débouché. Tu te mets un petit chat en dessous qui prend à peu près 1 seconde sur n'importe quel CMS à mettre en place et tu commences à parler avec ta cliente, quoi. et tu essayes de voir ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, et tu prends un maximum d'informations parce que c'est ce qui va t'aider à construire derrière le produit qu'il lui faut, quoi.
Donc tu viens de nous expliquer comment les marques de mode devraient tester leurs produits quoi.
Encore une fois, je sais pas, enfin, c'est-à-dire j'ai pas la prétention de dire comment une marque de mode devrait marcher parce qu'on ne produit rien. Mm. En revanche, d'un point de vue technique et start-up friendly, moi je pense sincèrement que c'est trop engageant de mettre 1 € dans quelque chose où tu sais pas si ça marche. Nous, on a vu plein de marques qui se sont lancées à faire des productions de dingue, à investir de l'argent, à créer des protos, des machins, etc. Alors qu'en fait, elles savaient pas si ça allait fonctionner, tu vois. Et bah, du coup, bah, tu crames un cash de dingue, alors que tu sais pas si t'as un débouché. Et c'est pour ça que t'as des trucs comme Kiss Kiss Bang Bang, Ulule, ce genre de trucs qui fonctionnent. T'as une marque qui est incroyable. D'ailleurs, tiens, c'est des mecs qu'il faudrait que t'ailles interroger, qui s'appelle Asphalt.
J'ai pris rendez-vous avec William, ouais. Je le vois bientôt. Je suis content. Bah,
tu vois, Asphalt, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Asphalt, ils ne produisent rien s'ils savent pas que ça se vend d'abord. C'est magique. Ils te font un pull. Un joli pull. Alors, ils le sortent pas de nulle part, tu vois. Ils ont fait des tests, machin, etc. Ils ont dû mettre de l'argent quand même, si tu veux. Mais ça te coûte quoi? Je sais pas, ça doit coûter 2 000-3 000 euros max, tu vois.
Ouais, c'est un proto, ouais, ça coûte 1 500 balles. Bon, bah voilà. Même pas.
1 500 balles, disons qu'ils se sont plantés 2-3 fois parce que ça allait pas sur les finitions, j'en sais rien. Allez, ils ont mis 3 fois ça. Très bien.
Mais même pas en général, parce que si tu vas voir une boîte au Portugal, tu leur dis, tu leur présentes le projet, etc. Ils te font des protos, mais pour 500 balles. Même
bon
pas.
Bah très bien. Bah tu mènes encore dans ma démonstration. Ouais. Allez, tu mets 2 000 euros parce que tu fais 4 protos avec 4 couleurs différentes, etc. Tu vois. Tu fais un joli shooting avec un mec qui a une super gueule, voilà. Tu fais une jolie vidéo, t'essayes de packager un peu ton truc pour que ce soit sexy. Tu le fous sur Facebook. Tu fais un kiss kiss bang bang. Tu dis, voilà, je vous le livre dans 3 mois, payez maintenant, c'est 150 euros. Et tu vois si ça prend, tu vois. Et si ça prend, eh ben, tu le fais. Et si t'as 4 paumés qui t'ont fait une commande et en fait, tu te rends compte que ça vaut pas le coup, tu les rembourses et tu leur dis, désolé, merci pour votre confiance. Et voilà, quoi.
Mais j'ai abusé de votre confiance.
Non, c'est non, pas non, j'ai abusé, pas, c'est juste pas. J'ai non, essayé, rigole, tu vois. Enfin, c'est t'abuses de personne si tu leur rends l'argent. Après, effectivement, faut le rendre. Faut pas le garder. Ça, c'est sûr, il faut pas le faire. Ouais. Mais tu vois. Ouais. Et en vrai, il faut absolument pas faire le contraire, à mon avis. Mais après, c'est-à-dire, aller voir ton mec au Portugal, lui dire, voilà, je vous fais un proto, s'il est génial, je vous en prends 15 000. Parce que si tu te retrouves avec 14 090 sur les bras, c'est chiant, tu vois.
Bah, t'auras des pulls pour toute ta vie.
Ouais, enfin, t'as des cadeaux de mariage,
et de Noël,
de Noël, d'anniversaire pour toute ta vie. Mais c'est embêtant, tu vois, parce que tu as engagé des frais et ça, pour le coup, je pense que c'est un truc qui n'est pas très, c'est pas un truc qui est connu sur des gens, enfin, pour des gens qui sont pas forcément dans l'écosystème startup. Et à mon avis, c'est pas des choses qui sont connues ou c'est pas des mindsets qui sont vraiment, qui sont appris dans des boîtes comme l'IFM ou ce genre de trucs, tu vois. Moi, j'encourage vraiment toutes les personnes qui sont dans qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et dans le secteur de la mode à tester un maximum de trucs avant de se lancer pour de bon, quoi. Parce qu'une fois que tu te lances, t'engages des frais et si t'as pas derrière l'assurance que ça va fonctionner, bah, tu peux y laisser des plumes, tu vois. Et ça, il y a plein d'endroits, il y a plein de bouquins qui te le disent. Et il y a plein d'endroits, tu vas chez The Family, tu prends rendez-vous avec un mec de là-bas et juste tu prends une demi-heure pour discuter de ton projet. Et les gars, ils sont plein de bons conseils, quoi.
Et c'est quoi les bouquins que tu nous conseilles?
Alors, c'est pas... Moi, j'ai une liste de lectures que j'adore, que j'envoie à toutes les personnes qui travaillent chez nous, quand elles arrivent. Après, c'est pas forcément focalisé mode, mais c'est mindset entrepreneur.
Tu nous l'enverras, on pourra la partager avec...
À fond, carrément.
Avec l'audience.
Il y a un bouquin qui s'appelle Hooked. Qui est sur comment tu comprends la psychologie de ton acheteur pour justement lui faire un outil qui correspond à ce qu'il veut. T'as un bouquin de Peter Thiel qui est le fondateur de PayPal et de Palantir qui s'appelle From Zero to One, qui est sur comment tu disruptes le marché et comment est-ce que t'ajoutes de la valeur ajoutée. Je pourrais te l'envoyer, j'ai plein de trucs.
On va la partager. Très bien.
Plein de trucs. Et en vrai, par ailleurs, moi, je cherche toujours, tu vois, à chaque fois que je rencontre un mec, justement, quand j'essaye d'apprendre sur un sujet, quand je rencontre un gars, je lui dis, c'est quoi ton bouquin de référence sur ce sujet-là? Et il me donne ses bouquins et je les lis, et, tu vois.
Vous avez commencé avec combien ?
D'argent ?
Ouais.
On a mis 10 000 euros chacune dans la boîte au départ.
D'accord.
Mais en fait, on n'a pas mis 10 000 euros comme ça en front. Mmh. C'est-à-dire qu'on a mis 1 000 euros.
Pour acheter les fringues au début,
pour prendre l'abonnement Shopify. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, Thérèse. Pour l'abonnement Shopify, pour les shootings, payer les shootings.
Le photographe.
Mmh. Franchement, tu m'aurais vu il y a un an, j'empruntais de l'argent à tout le monde. À commencer par mon mec que j'avais lâchement abandonné à Londres, parce que lui, il habitait, on était tous les deux à Londres. Quand je lui ai dit ciao, bisous, je rentre à Paris. Je vais me tenter l'entrepreneuriat avec Jean de la Roche-Prochard. Lui, il était, mais c'est qui ce Gugus? Enfin, genre, il en est hors de question. Et après, j'ai eu trop de chance parce qu'il m'a hyper soutenue. Donc, je suis rentrée à Paris. J'avais loué un 18 mètres carrés qui était horrible avec pas de fenêtre et tout. Mais au moins, ça me faisait un pied à terre ici. Et du coup, j'empruntais de l'argent à mon père, j'empruntais de l'argent à mes potes, j'empruntais de l'argent à mon mec. On essayait de se débrouiller comme ça. Mmh. Et l'avantage, c'est que comme ça a bien marché très rapidement, en janvier, on a levé de l'argent, on a levé un petit tour de Love Money, etc., avec des angels et un peu de proches. Mmh.
Vous avez levé combien ?
On a levé 300 000 euros. Mmh. Ce qui nous a permis, du coup, de nous rembourser, du coup, sur les frais, de rembourser, du coup, tout le monde sur les frais qui avaient été avancés. Mmh. Et de pouvoir investir, quoi.
Ouais. Et de commencer à vous payer ? Non ou pas ?
Si, mais alors, c'est ridicule. Hein.
Mais c'est le strict minimum. Mais en tout cas, vous arrivez quand même à sortir un mini salaire, quoi.
Ouais, on a sorti un petit peu d'argent, mais tu vois, parce qu'on avait un peu d'économie. Mais tu vois, au final, 5 000 euros par personne pour monter ta boîte, c'est pas la mer à boire, tu vois.
Ouais, après, ouais, tu t'engages pas trop, quoi.
C'est pas très engageant, tu vois. Tu peux trouver, même en faisant des prêts à droite à gauche, je pense que tu peux le faire. Mais l'idée, c'est que nous, on s'était dit, on ne veut pas prendre un crédit à 30 000 balles chacune pour tester une idée, tu vois. Imagine-toi qu'en fait, tu testes l'idée et tu te rends compte que personne ne veut acheter du vintage en ligne. Tout le monde veut essayer, tu vois. Moi, j'en sais rien, en fait, on suppose, mais tant que t'as pas testé par rapport à ton marché, en fait, tu sais pas. T'as plein d'hypothèses qu'il faut confirmer. Non, mais on voulait pas s'endetter pour ça, quoi.
Et comment vous êtes organisées toutes les deux je sais pas, vous avez un pacte d'actionnaires, j'imagine, comment on trouve un pacte d'actionnaires facilement sur internet?
Mais pareil, t'en sais rien, donc tu vas taper au board des mecs qui savent. Ouais. Bonjour, toi aussi t'as levé de l'argent, comment t'as fait, comment ça fonctionne?
Et l'argent que vous avez levé auprès de Love Money, Business Angel, etc., vous leur donnez des parts ? C'est quoi le deal avec eux ?
En gros, quand tu lèves de l'argent aujourd'hui, soit tu fais effectivement de la Love Money, etc., et c'est des prêts à taux zéro, ce que tu peux faire. Hein. Ou alors, effectivement, tu dis voilà mon objectif, voilà ce que je veux faire avec ma boîte. Nous, on veut aller là. Tu vends ta boîte, quoi. Tu vends l'histoire. Tu les fais rêver avec toi parce que tu y crois et parce que tu sais que tu vas le faire. Et voilà. Et du coup, les gars, effectivement, te donnent l'argent contre une petite partie de ta boîte. Donc, effectivement, tu files des parts.
Et c'est quoi ? Petite partie, ça va de combien à combien ?
Franchement, c'est à toi de négocier. Ça dépend de ce que tu fais. Donc, ça peut aller... quand c'est dans des projets comme ça, hyper en amorçage, c'est globalement 10 à... C'est entre 10 et 30 %. Tu vois, ça peut être assez large. Ça dépend de ce que tu vends,
beaucoup,
quoi.
Et qu'est-ce que tu leur vends comme histoire, et est-ce que t'as un deck, t'as un business plan, etc. Encore une fois, où est-ce que tu vas chercher des trames de business plan, des trames de deck, quelle histoire tu leur racontes?
Mais t'as trop d'informations, en fait. Aujourd'hui, la start-up, si tu veux, c'est la nouvelle structure de la société. Tu cherches, si tu tapes dans Google pitch deck ou écrire ton deck, t'as 40 000, si tu veux, t'as 40 000 sorties. Donc, il suffit d'aller chercher et de regarder. Après, petit à petit, tu sais que The Family, vraiment, je sais pas comment dire,
il faut y aller, quoi.
Mais c'est une mine d'or d'informations.
Ouais.
Et puis, t'es pas obligé d'être forcément chez eux, vu qu'ils donnent énormément de contenu gratuit. Donc, tu tapes Pitch Deck, The Family, je suis sûre que quelqu'un a écrit dessus. Jean, le fameux Jean, il a un blog Medium où il t'explique slide par slide ce qu'il faut écrire sur ton Pitch Deck. Enfin, c'est simple, tu vois, il suffit juste de suivre bêtement.
On vous mettra les liens, les gars.
Ouais, je t'envoie le lien, y a pas de problème. Mais c'est vraiment, il y a même trop d'informations.
Ouais, c'est ça en fait la difficulté, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement d'informations et que tes journées ne durent que 24 heures, c'est comment t'arrives à sélectionner et à choisir la bonne information.
Moi je te dis, on prend en priorité, tu parles à des gens qui sont dans l'écosystème, qui vont te donner les 2-3 mecs qui sont influents pour eux. Moi je te dis, c'est Jean de la Roche-Brochard, qui écrit beaucoup sur Medium, parce que lui, son travail, c'est de faire en sorte que des boîtes sortent de terre. Mmh. Et du coup, il donne tout ce qu'il sait, il l'écrit. Mmh. Donc, t'as forcément, si t'as une question, forcément, il a dû écrire dessus à un moment ou un autre. Mmh. Et par ailleurs, tout l'écosystème The Family, où ils ont énormément de vidéos, ça se met sur YouTube et tu peux tout regarder.
Mmh. Autre question, comment tu trouves ton équilibre dans tout ça, perso ?
Bah c'est simple, t'en as pas. Tu vis pour ta boîte, tu te réveilles avec, tu dors avec, t'en parles toute la journée. Y a pas de place pour grand-chose de plus. On fait des choix, tu vois. Nous, aujourd'hui, la boîte, on vit pour ça parce qu'on sait que ça va sortir, ça va devenir gros et qu'on va se donner les moyens pour que ça le devienne. Bah, du coup, tu rames, quoi. Tu rames, tu travailles, tu bosses. Tu réfléchis à plein de projets, tu testes, tu te plantes, tu recommences, t'es toujours dans la résilience et effectivement, t'as pas beaucoup de place pour énormément de dîners avec tes potes la semaine, pour partir en week-end tous les week-ends, c'est pas possible parce que tu travailles. C'est un choix de vie, tu vois. Après, nous, l'avantage, c'est qu'on est des jeunes trentenaires avec mon associé. On a un peu passé, si tu veux, les années de tough hardcore, tu vois, où tu rentres et t'es éclaté. Maintenant, on fait des petits dîners avec nos amis, tu vois, c'est un petit peu plus calme. Donc, au global, c'est assez gérable. Mais effectivement, tu fais des choix, tu vois.
Comment vous mesurez votre avancement ?
C'est de la croissance, c'est du chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires augmente, donc ça va dans le bon sens.
Ouais. C'est du nombre de commandes, c'est du nombre de repeats de clientes qui rachètent.
Ouais.
Et voilà.
Ça ressemble à quoi vos réunions, enfin vos catch-up avec Ariane, toutes les semaines, tous les mois? Est-ce que vous avez un moment privilégié? Parce qu'il y a un truc qu'il faut spécifier quand même, c'est que Ariane, elle vit à Bordeaux.
Ouais.
Et que toi, t'es à Paris. Ouais. Et que voilà, c'est un business sur Internet, bon, ça on a compris. Mais ça paraît assez dingue. Enfin, c'est très moderne et on l'entend de plus en plus, mais d'avoir les 50% de la boîte qui est basée à Bordeaux et qui n'est pas avec toi physiquement, en quoi ça vous a bénéficié ou au contraire, ça vous a joué des tours ?
En fait, avec Ariane, on a l'avantage donc, d'être amis depuis hyper longtemps. Donc, déjà, je ne sais pas comment dire, en fait, tu as un moment où on s'est tellement bien trouvés, on pense la même chose au même moment. Enfin, c'est assez ouf. C'est-à-dire, on est tellement alignés sur ce qu'on fait que parfois, souvent, on a des messages qui se croisent où on se parle exactement de la même chose au même moment alors que ça n'avait rien à voir avec le schmilblick, tu vois. Donc déjà ça, je pense que quand tu montes une boîte avec quelqu'un, il faut que tu sois hyper connecté avec cette personne-là. Il faut que tu te dises c'est plus que ton mec, quoi. Si tu lui parles toute la journée, t'es tout le temps en connexion avec elle, voilà. Nous, on se parle tout le temps sur WhatsApp. On a tout le temps WhatsApp ouvert sur nos ordinateurs et on échange toute la journée là-dessus. Il y a d'autres personnes, c'est Slack. Enfin, t'as plein d'outils en fait qui existent sur de la communication en interne. Nous, on passe par WhatsApp, c'est très simple. Après, c'est ce que je te disais, on est hyper hyper respectueux de l'autre. Elle prend des décisions, je la remets jamais en question. Parfois, je suis pas d'accord, si tu veux, donc je peux lui toucher un mot, mais je respecte tellement ce qu'elle fait que ça me viendrait même pas à l'esprit, si tu veux, de critiquer des looks qu'elle aurait pu faire, de critiquer le choix du mannequin, de critiquer la modération qu'elle a faite sur le site. Enfin, en fait, c'est son truc. Enfin, c'est vraiment c'est sa partie et je la respecte énormément. Et vice versa, c'est pareil. Elle a énormément confiance en moi. Elle sait elle sait qui je suis, elle sait de quoi je suis capable et elle me fait confiance. Elle sait que sur ces sujets-là, elle ne pourrait pas faire mieux. Donc, du coup, elle me laisse la main. Et comment ça fonctionne ? C'est on se met d'accord, on a un catch-up en gros officiel, on va dire, chaque semaine, où on se déroule tous les objectifs de la semaine et on fait un point sur ce qui a été fait la semaine dernière. Et après, chacun chez soi et tout le monde bosse, quoi. Et je pense que ça nous a vraiment bénéficié plus que ralenti parce que du coup, ça nous a forcé à diviser les tâches. Et du coup, ça nous permet d'avancer très vite sur les sujets. Parce que t'as pas plusieurs personnes qui donnent leur avis. Tu sais que t'es de toute façon, t'es tout seul dans ta décision. Donc t'avances, tu vois, tu déroules et tu délivres.
Et tu penses que c'est viable sur le long terme?
J'ai aucun doute sur le fait que c'est viable sur le long terme.
D'être à distance comme ça, ouais.
Aucun doute. Okay. T'as plein de boîtes qui fonctionnent comme ça. Aujourd'hui, on a des outils... Enfin, tu sais, alors ça, c'est un autre truc de start-up.
Ouais.
C'est que ça sert à rien de trop discuter. Tu vois, il y a un moment, t'as un problème, tu réfléchis, tu choisis une solution et après, faut l'appliquer et tu vois les résultats. Mmh. Et si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, bah...
Tu changes.
Tu changes, tu vois. Mmh. Et ben là, du coup, on n'a pas besoin de se voir physiquement pour faire ça, quoi. Il y a des visioconférences, il y a plein d'outils qui nous permettent d'échanger. Mmh. On n'a vraiment pas besoin d'elle physiquement ici. On a besoin d'elle tous les jours. Mmh. J'ai besoin qu'elle bosse et qu'elle soit à fond et qu'elle fonctionne bien, etc. Mais qu'elle soit à Paris, à Bordeaux, j'en sais rien. Moi, j'ai juste besoin qu'elle soit heureuse. Et aujourd'hui, sa vie est à Bordeaux, donc elle restera là-bas. Après, on est tous très clairs sur le fait que si la boîte explose, et le jour où la boîte explose plutôt, parce qu'on y croit fort et on sait qu'on va y arriver, si je sais pas, il faut délocaliser la boîte justement à Bordeaux parce que on va avoir un gros centre logistique et que du coup ça fait plus sens d'être à Paris parce que ça coûte beaucoup trop cher en loyer. Et ben ce sera nous tous, si tu veux, qui partirons à Bordeaux. Si au contraire on se rend compte que l'activité se passe plus à Paris et que c'est hyper important, ben elle reviendra. Si on se dit qu'en fait notre marché il est international, faut aller à San Francisco pour X raison, ben on partira tous là-bas. On sait qu'aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Le jour où ça fonctionne plus, on trouve des solutions, tu vois, parce que l'important, encore une fois, on sait que c'est la boîte.
Ouais, il faut être flexible. Très bien. Je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses là. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à rajouter ?
Bah écoute, non, je pense qu'on a fait pas mal le tour.
Ouais, tu penses que j'ai oublié des thèmes quand même ? Est-ce que je t'ai pas beaucoup creusé quand même, hein ? J'ai été gentil quand même, non ?
T'as été hyper sympa.
Est-ce que tu as... La question que je pose toujours à la fin de mon podcast, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Bah, je te dis, les mecs d'Asphalte, moi, ça m'intéresserait bien.
Et ben, bientôt.
Marie de Maison Cléo à fond. Mm. Parce qu'elle, tu vois, en vrai, les deux, ils seraient hyper intéressants parce qu'ils ont des manières, si tu veux, de considérer le business qui est assez innovante, tu vois. Asphalte, ah bah ouais, Asphalte, ils sont très forts parce que ils ont changé, si tu veux, le paradigme de la mode. C'est-à-dire que c'est un paradigme de la demande. Mmh. C'est la demande, si tu veux, qui drive tout ton business. Mmh. Ce qui est très fort parce que ça te permet de faire des économies de coûts de fou et d'être très juste, si tu veux, sur ta demande, enfin, sur ta production, etc. Mmh. Et ça, foncièrement, je pense que c'est un mec qui est hyper important pour les gens à qui tu parles et les gens qui nous écoutent. Mmh. Parce que ça te permet de faire un truc qui est très lean, c'est-à-dire qui est au plus proche, tu veux, de ce que tu veux faire et qui te permet de pas cracher trop de thunes. Marie, au contraire, je trouve qu'elle a une trop belle histoire et que elle a une manière de fonctionner qui est exceptionnelle et le retour au fait main, à l'histoire avec sa mère, tu vois, nous par exemple, elle adore le vintage, on parle énormément de vintage avec elle. Parce que ça la drive, tu vois, tout ce côté artisanat, fait main. Et c'est une très belle histoire que j'aimerais bien entendre de sa bouche.
Et ce qui est génial avec William aussi, c'est qu'il vit entre Paris et Bordeaux.
Ouais.
Et qu'il a un pied dans l'ancien monde avec sa marque 6 et 7.
Ouais.
Et un pied dans le nouveau avec Asphalte. Ouais. Donc j'ai très envie. Enfin, en tout cas, c'est sûr, hein, on a pris rendez-vous. Donc je pense que ça sera un interview qui te suivra
si
de près.
Viens au micro.
Ouais. Cool. Eh ben, écoute, merci infiniment. Si des gens veulent rentrer en contact avec toi, comment ils font ?
LinkedIn, Instagram, même s'ils nous écrivent sur Instagram. Nous, je te dis, on est trop contents d'échanger et de donner des idées et d'aider l'écosystème parce que nous, quand on tape aux portes, on nous répond et on trouve ça génial. Ouais. Donc, on serait ravis de le rendre
trop cool
à n'importe quel entrepreneur.
Ouais, tu nous l'as bien rendu ce matin. Merci infiniment et bonne chance pour Imparfaite. Et maintenant, je m'adresse à mes auditeurs pour m'aider. La meilleure façon de m'aider, c'est de noter mon podcast sur Apple Podcast, de laisser un commentaire et d'en parler autour de vous. À très vite. Salut.
Salut.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes et SoundCloud. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre iPhone et cherchez « Entreprendre dans la mode » dans votre barre de recherche. Allez dans la section « Notes et avis » et laissez un commentaire. Vous pouvez aussi choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.